d'Europe 1, il est 6h.
Il y a un moment pour gérer une épidémie qui, de toute façon, est inexorable et essayer de protéger au mieux les plus fragiles.
Une épidémie inexorable, ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier soir lors d'une réunion de chercheurs sur le coronavirus. Dernier bilan, 7 morts, 138 cas de plus qu'hier.
Parmi les nombreuses questions qui se posent, l'organisation des municipales. Pas d'annulation, promet le gouvernement, mais de la prévention.
Un Premier ministre en campagne d'ailleurs, hier soir au Havre, Édouard Philippe qui appelle à la mobilisation.
Le 15 et le 22 mars prochain, vous choisissez votre maire. C'est vous qui prenez cette responsabilité. C'est pas ceux qui sont pas d'accord et qui ont parfaitement le droit de le dire dans la rue en manifestant. C'est ceux qui vont voter.
À l'approche de la journée du droit des femmes, coup de projecteur sur la précarité menstruelle, les difficultés d'accès aux protections périodiques.
Elles vont préférer s'acheter des serviettes plutôt que de s'acheter à manger. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui les femmes doivent choisir entre s'alimenter et avoir une serviette.
Et puis le foot à la fin du temps additionnel. Saint-Etienne exulte, les Stéphanois qualifiés pour la finale de la Coupe de France après leur victoire hier soir contre Rennes.
6h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Personne n'est épargné par le coronavirus. Même l'Assemblée nationale est désormais touchée. Le député du Haut-Rhin, Jean-Luc Retzer, âgé de 68 ans, a été hospitalisé en réanimation. Un salarié de la buvette est également infecté.
Et on attend les résultats pour un cas suspect. Un homme qui travaille au restaurant des députés. Le nombre de cas s'est accéléré hier. 138 de plus. Et on déplore désormais 7 morts. Emmanuel Macron a réuni des spécialistes à l'Élysée.
Ils estiment que le passage à la phase 3, celle de l'épidémie, interviendra au plus tard dans 2 semaines. Le président parle, lui, d'une épidémie inexorable.
J'ai eu l'occasion de voir sur le terrain d'abord pour essayer de stopper l'arrivée, ensuite pour ralentir, et nous sommes encore dans cette phase. Et à un moment, nous le savons tous, pour gérer une épidémie qui, de toute façon, est inexorable, et essayer de protéger au mieux les plus fragiles, d'être en capacité de gérer les cas les plus critiques, de limiter les risques, et j'espère d'avancer aussi sur ce qu'on pourra améliorer en termes de diagnostic et de traitement.
Pour l'instant, ni vaccin, ni traitement et une psychose qui s'aggrave un peu plus chaque jour. Vous avez peut-être constaté dans vos supermarchés des ruptures de stock, d'ailleurs dites-le nous, au 39-21, des pâtes, du riz ou encore des couches pour bébés.
Et pour éviter ça, la grande distribution a pris ses précautions pour ce week-end. Maud Descamps.
Éviter les rayons vides. Depuis quelques jours, la plupart des enseignes de la grande distribution ont pris les devants pour éviter d'être prises par surprise, comme le week-end dernier. À Auchan-Vélizy, dans les Yvelines par exemple, le rayon pâte avait été dévalisé en seulement quelques heures. L'enseigne a donc prévu d'ajuster les réassorts de ses rayons pour ce week-end, mais aussi de ses stocks pour les commandes de drive. Elles ont augmenté de 30% cette semaine. Même chose chez Système U. L'enseigne a augmenté ses commandes de produits de première nécessité, le riz, les pâtes et les conserves de légumes, de 50% pour ce week-end. Nous passons d'un mois à un mois et demi de stock, indique-t-on. L'enseigne qui rappelle qu'il n'y a aucun risque de pénurie actuellement et appelle les consommateurs à rester raisonnables.
Ah oui, mais ça c'est l'effet, vous savez, c'est l'effet des raffineries, par exemple, à chaque fois qu'on dit bah attention le pétrole, et bien d'un seul coup on va tous faire le plein alors qu'on n'en avait pas besoin. Et résultat, il y a une pénurie. Restez raisonnable. Est-ce que vous en êtes capable d'ailleurs? Est-ce que vous allez suivre ce conseil? Et puis, est-ce que vous constatez tout simplement dans la supérette près de chez vous ces rayons qui se vident? 39-21, le hashtag Europe 1.
Europe 1, il est 6h04.
Et dans ce contexte difficile de maintenir les grands événements sportifs, c'est ainsi que le marathon de Paris qui était prévu le 5 avril est reporté à octobre. Déception pour les 60 000 inscrits.
Et si on annule les grands rassemblements, pourquoi ne pas en faire autant pour les élections municipales?
Il n'en est pas question, dit-on au gouvernement. Pourtant, une récente étude montre que près de 30% des électeurs sont inquiets de se rendre dans un bureau de vote. Alors le gouvernement met en place des mesures pour les rassurer. Adrien Beck.
Des élections, oui, mais avec des précautions. Flacons de gel hydroalcoolique à l'entrée des bureaux de vote, des électeurs invités à se tenir à 1 mètre les uns des autres, des affichettes d'information. Voilà les propositions de Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur veut aussi faciliter le vote par procuration.
Nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Justice pour que nous puissions avoir des personnels supplémentaires qui ne soient pas forcément des agents de police judiciaire, qui puissent renforcer nos effectifs pour que celles et ceux qui souhaitent voter par procuration, par appréhension du risque lié au Covid-19, puissent pouvoir voter par procuration.
Une réponse aux inquiétudes de certains états-majors de campagne qui craignent déjà une démobilisation, notamment des personnes âgées. Avec ces mesures faites pour rassurer, le ministère de l'Intérieur espère donc garantir un bon niveau de mobilisation les 15 et 22 mars.
La mobilisation, c'est justement ce qu'espère Édouard Philippe, un Premier ministre en campagne.
Il était hier soir en meeting au Havre, alors que les forces de l'ordre tenaient à distance les quelques 300 manifestants venus protester contre la réforme des retraites et l'usage du 49-3. Le reportage de Claudia Bertram.
Merci d'avoir bravé la pluie froide et les manifestants parfois un peu chauds.
À quelques mètres de la salle du meeting d'Édouard Philippe, des opposants manifestent. À la réforme des retraites s'est ajouté le 49-3, un argument de campagne pour le communiste Jean-Paul Lecoq, son principal adversaire.
Les gens nous disent, vous avez une responsabilité au Havre, c'est vous qui devez faire la sanction au Premier ministre.
Édouard Philippe, lui, fait tout pour enlever sa casquette de Premier ministre. Il parle du Havre, rien que du Havre, et appelle ses troupes à la mobilisation.
Le 15 et le 22 mars prochain, vous choisissez votre maire. C'est vous qui prenez cette responsabilité. C'est pas ceux qui sont pas d'accord et qui ont parfaitement le droit de le dire dans la rue en manifestant. C'est ceux qui vont voter.
Message reçu 5 sur 5 par les militants, mais ils ne cachent pas leur inquiétude.
Annoncer le 49-3 samedi en catimini, ça va pas l'avantager. Hein.
Il est certain qu'on est un peu inquiet, c'est un vrai challenge cette élection.
Ce sera sans doute plus serré que la dernière fois, mais je pense qu'il passera relativement facilement quand même.
Édouard Philippe est certes en avance dans les sondages, mais un de ses proches est formel. Il sait qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance.
Claudia Bertram au Havre pour Europe 1.
Et vous retrouvez bien sûr la liste de tous les candidats sur Europe1.fr. Aux États-Unis, on vient de voter dans 14 États, vous le savez, pour les primaires démocrates, et désormais on y voit beaucoup plus clair.
Après le milliardaire Mike Bloomberg, c'est la sénatrice Elizabeth Warren qui a abandonné la course hier. À part une candidate marginale, Tulsi Gabbard, il ne reste donc plus que deux candidats de prétendants, Joe Biden et Bernie Sanders. C'est donc l'un des deux qui affrontera Donald Trump à la présidentielle de novembre, Xavier Yvon.
Oui, on en est réduit à un duel d'hommes blancs de près de 80 ans. Et pourtant, sur la ligne de départ, jamais il n'y avait eu une telle diversité de profils dans la vingtaine de candidats. Beaucoup de femmes, des Afro-Américains, un Asiatique, un jeune maire ouvertement homosexuel, Pete Buttigieg, Kamala Harris, Elizabeth Warren et les autres, c'était la promesse d'un renouvellement. Seulement voilà, quand les démocrates votent, ils ont un seul nom en tête, Donald Trump, c'est l'épouvantail.
Someone has to beat Trump.
Beat Trump.
Beat Donald Trump.
Il faut battre Trump, je l'ai entendu depuis des mois, de l'Iowa à la Virginie. Hors de question de prendre le moindre risque de perdre et donc de tenter l'aventure. C'est la peur qui a motivé les sympathisants démocrates, la trouille de voir Trump réélu. C'est pour ça qu'ils ont choisi des valeurs refuges, deux hommes politiques qu'ils connaissent depuis des décennies. Bernie Sanders, parce qu'il suscite le même mouvement populaire à gauche que Donald Trump à droite. Joe Biden, parce qu'il est le plus rassembleur, avec son capital sympathie, ses idées centristes et l'héritage de Barack Obama.
Xavier Yvon à New York pour Europe 1. Et pour l'instant, Elizabeth Warren n'a pas encore dévoilé qui elle soutiendra. En Syrie, le cessez-le-feu annoncé par la Russie et la Turquie vient d'entrer en vigueur. Calme relatif, constate l'Observatoire syrien des droits de l'homme, alors que les violences dans la région d'Idlib ont provoqué une catastrophe humanitaire.
Europe 1. La précarité menstruelle, on en parle peu et c'est pourtant, enfin, sauf ici parce qu'on l'a déjà évoqué il y a peu, c'est un sujet important, majeur pour les femmes en difficulté financière. On va y revenir dans la suite du journal.
À 6h10 sur Europe 1, le journal se poursuit. Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
La journée internationale des droits des femmes, c'est dimanche. Et à cette occasion, ce matin sur Europe 1, nous avons choisi d'évoquer un sujet plutôt tabou, celui de la précarité menstruelle.
Le gouvernement va lancer une distribution de protection périodique gratuite dans certains lieux qui reçoivent des femmes en difficulté. Pauline Jacquot s'est ainsi rendue à Bagnolet, en banlieue parisienne, dans un centre d'accueil. Écoutez son reportage.
C'est quasiment quotidiennement que les jeunes viennent en disant « mais j'ai rien ».
Ni serviettes hygiéniques, ni tampons. Les femmes qui viennent dans ce centre d'accueil dirigé par Amandine Maraval de l'association Une Femme, Un Toit sont très souvent sans ressources.
Quand elles viennent et qu'on leur propose de leur donner 5 euros, elles vont préférer s'acheter des serviettes plutôt que de s'acheter à manger. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui les femmes doivent choisir entre s'alimenter et avoir une serviette.
Émilie, 22 ans, vient ici tous les jours.
En fait, je suis venue parce que j'ai été victime de violences conjugales.
Plusieurs entreprises de Seine-Saint-Denis distribuent gratuitement des protections périodiques dans le salon du centre.
Ça va beaucoup aider les femmes parce que c'est vraiment des trucs qu'on a besoin régulièrement, chaque mois. Peut-être il y a des gens qui ne voient pas ça, mais nous, ça nous aide psychologiquement aussi.
À côté d'elle, Lucie touche 700 euros par mois.
Si on prend une marque qui était assez élevée, c'est comme 3-4 euros.
Financièrement, c'est un budget, même si on trouve des systèmes D, mais des fois c'est compliqué.
Des serviettes et des tampons gratuits, c'est aussi très important, rappelle la responsable du centre, pour que ces femmes soient en confiance et reviennent toquer à notre porte.
Et lorsqu'on en a parlé, je m'en souviens, il y a quelques jours avec la coach Gaëlle Baldassare, elle nous expliquait que c'est une différence, une inégalité homme-femme de 8 à 20 000 euros sur une vie entière, justement que cette question des règles. C'est l'un des lauréats des trophées de l'avenir européen, le coup de cœur des auditeurs, l'association Les Papillons qui luttent contre les violences faites aux enfants.
Oui, elle vient d'installer sa première boîte aux lettres dans une école primaire à La Garde, dans le Var. Boîte aux lettres Papillons, destinée aux petites victimes de harcèlement. Frédéric Michel.
Elle est accessible aux enfants, mais un peu à l'écart, quand même à l'abri des regards, pour pas que les enfants se sentent épiés.
Une petite boîte aux lettres recouverte de papillons. L'idée a tout de suite plu à l'équipe éducative de l'école élémentaire Maurice Delplace. L'établissement ne connaît pas de problème particulier. Ici, la mixité sociale est un avantage, mais les violences faites aux enfants peuvent s'exercer partout. Marc Fernandez est enseignant et directeur de cet établissement situé à La Garde.
On n'est pas censé savoir tous les problèmes. On peut passer à côté de problèmes qui peuvent être détectés par ce système de boîte aux lettres. Et que des référentes viennent à l'école parler de différentes formes de maltraitance des enfants, ça me paraissait également très intéressant.
Enfant, Laurent Boyer a été victime d'abus. Le président de l'association Les Papillons a imaginé cette boîte aux lettres comme un système d'alerte. Après vérification, les services compétents pourront être saisis.
Partant du constat que les enfants n'appellent que très peu le 119, c'est pouvoir donner aux enfants une autre possibilité de libérer leur parole, notamment par l'écrit, puisque les agresseurs nous disent de nous taire et nous imposent le silence, mais ils ne nous empêchent pas d'écrire. C'est sur ce constat-là qu'on essaye de travailler avec les enfants.
D'autres écoles vont s'équiper et l'idée est aussi d'installer des boîtes dans les collèges et clubs sportifs.
Du football à présent, cela faisait 38 ans que les Verts n'avaient pas connu une finale de Coupe de France et cette fois c'est fait.
Oui, Saint-Etienne a battu Rennes hier soir 2-1, victoire sur le fil avec un but inscrit en toute fin de rencontre par Riyad Boudbouz qui ne boude pas son plaisir.
C'est des moments inoubliables dans une carrière et franchement voilà, je suis content de le vivre ici. Depuis le début de saison, on ramasse et moi personnellement j'en ai pris dans la gueule et quand tu mets ce but-là, ça te soulage et ça fait du bien, on va pas se mentir et c'est vrai que depuis le début, ça a été compliqué. Donc j'espère tirer tout le positif de ce match-là pour pouvoir encore progresser et totalement me libérer sur le terrain.
Saint-Etienne, 16e de la Ligue 1, qui affrontera le PSG en finale de la Coupe de France. Ce sera le 25 avril au Stade de France. Et ce soir en Ligue 1, Marseille reçoit Amiens.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 6h. Il est 6h14 sur Europe 1. À suivre plusieurs éléments. Fanny Agostini, notre rendez-vous à la ferme, bien sûr. Un prochain journal à 6h30 avec Jérôme Lacroix. Mais tout de suite... C'est pas pour rappeler des souvenirs à notre cher Laurent Cabrol, non. On va parler d'une famille en or ce matin, la famille Rouvier. Il y a 7 candidats dans la commune de Brénon, c'est dans le Var. 7 candidats, 7 de la même famille. Ils vont siéger les 7 au conseil municipal ensuite. Les municipales, version un peu insolite dans un instant.
À 6h16 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Béliard.
Le coronavirus entré à l'Assemblée nationale. 2 cas, un député LR qui est hospitalisé en réanimation et un salarié de la buvette. Le bilan national s'est alourdi avec 423 cas et 7 morts. Un glissement de terrain à l'origine du déraillement du TGV Colmar-Paris hier matin. Une vingtaine de personnes ont été blessées, dont le conducteur est grièvement touché. La sénatrice Elizabeth Warren abandonne la course des primaires démocrates aux États-Unis. Elle ne dit pas encore si elle se ralliera à Joe Biden ou à Bernie Sanders.
La météo des plus fréquentes du sud-ouest jusqu'au Cantal avec du vent. Même type de temps ce matin de l'Aquitaine à la Manche. Ça va s'arranger à l'est et ce sera bien plus lumineux. Du nord au bassin parisien, du Morvan à la région lyonnaise. Les températures maximales 6 à Rodez, 10 à Bourges, Annecy, 12 à Valence.
Europe 1.
6h17 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet dans l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Ce matin, à nouveau au programme, les élections municipales, c'est dans 9 jours. Et une commune avec des candidatures insolites. 7 candidats, les 7 de la même famille.
Bonjour Armand Rouvier.
Oui, bonjour.
Vous êtes le maire de Brenon, dans le Var.
C'est exact, oui.
Soyez le bienvenu tôt ce matin sur Europe 1. Vous êtes maire depuis 1995. Déjà, puisque c'est une histoire de famille, vous aviez succédé à votre père qui, lui, a été maire de la commune de 1959 à 1995.
C'est exact, oui. C'est
donc,
vrai.
Vous avez pris la suite. C'est une petite commune. Combien d'habitants ? 29, une trentaine, hein, c'est ça ?
29 habitants à l'année et à peu près 70 l'été.
Oui, parce que évidemment, il y a des touristes en été. Vous multipliez la population par 2,5. Les élections municipales, on vote dans 9 jours. Et à Brenon, les habitants auront le choix dans le vote, mais ils voteront Rouvier. Bref, il y a 7 postes, 7 candidats, 7 de la même famille.
C'est ça, oui, tout à fait.
C'est quoi le conseil municipal chez vous ? C'est une réunion de famille ? C'est Noël ? Comment ça se passe ?
Ça ressemble effectivement à une réunion de famille puisqu'on est tous issus de la même famille. Par contre, ça reste malgré tout démocratique puisqu'il y a des débats, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et l'objectif pour moi, c'est effectivement de rassembler et de trouver le dénominateur commun pour travailler dans l'intérêt commun.
Alors, ce n'était pas le cas aux dernières municipales. Hein. Cette fois, c'est la version famille Rouvier complète. Auparavant, il y avait 3 personnes qui ne portaient pas votre nom. Hein.
C'est ça, tout à fait, oui, tout à fait.
Pourquoi est-ce qu'elles ont choisi de ne pas rempiler ? C'était trop familial ?
Non, tout simplement par des accidents, les accidents de la vie. Une personne a été touchée par un AVC et une autre personne était atteinte par l'âge. Donc, du coup...
Renouvellement.
Renouvellement. En plus de ça, donc, des velléités. Et c'est ça qui est encourageant, c'est qu'on a donc une équipe qui est fortement rajeunie. Puisque plus de la moitié des conseillers ont moins de 34 ans. Quoi. Donc 71%
Oui, parce qu'il y a plusieurs générations. Il y a plusieurs générations. Alors il y a vous, évidemment, vous êtes aux manettes de cette commune depuis 25 ans maintenant. Et vous êtes accompagné par votre fille, Amélie, par votre cousin, Jean-Luc, et 2 de ses enfants. C'est bien ça ?
C'est ça, tout à fait, oui. Et puis des jeunes très impliqués. C'est ça qui me rassure, c'est que on voit bien que malgré donc la difficulté à vivre dans des pays comme les nôtres, ils sont très attachés au pays et ils sont très impliqués. C'est ça qui me rassure. C'est encourageant pour l'avenir.
Alors les 2 enfants de votre cousin qui, eux, ont aussi des cousines germaines, Gaëlle et Morgane, qui sont aussi sur la liste.
C'est ça, c'est exact, oui.
Ça y est, on est au complet. Hein.
Oui, tout à fait.
Ah non, pardon, parce que j'ai oublié la secrétaire de la mairie. Ah, il y a aussi le cas Myriam.
Myriam, c'est une cousine donc par alliance pour moi, et c'est la maman de Gaëlle et de Morgane.
Elle est secrétaire de la mairie, donc elle ne peut pas candidater, mais ça fait une 8e personne de la famille dans cette mairie.
C'est ça, et c'est un pilier pour nous.
Bon,
c'est un véritable pilier.
C'est la seule salariée d'ailleurs de la commune de Brenon.
Tout à fait.
On est d'accord. Je donne un tout petit rappel historique. À la fin du 19e siècle, il y avait 200 habitants dans votre commune et une quinzaine seulement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que tout ça s'inscrit dans l'histoire. Votre famille était la seule à résider dans la commune après la Première Guerre. C'est bien cela ? La seconde.
Tout à fait. Ce qui explique en fait le fait que la famille Rouvier soit autant présente, puisqu'en fait c'était une des rares familles à être implantée sur la commune juste après la guerre. Et comme les grands-parents avaient de nombreux enfants, ils sont restés sur place. Et ce qui explique la particularité.
Alors, est-ce que quand on est en conseil municipal en famille ou en train de faire campagne comme en ce moment, est-ce qu'on se parle plus librement ? Est-ce qu'on s'engueule plus volontiers ?
Non, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt consensuel. On est vraiment sur l'élaboration de projets. Non, c'est plutôt consensuel. C'est plutôt après dans le mandat où il peut y avoir des fois des divergences. Non, il n'y a pas de concurrence à ce stade-là. Non,
et les sujets ne se croisent pas ? On n'est pas en train de parler, les commémorations du 11, c'est toi qui t'en occupes et le baptême du dernier cousin. On ne mélange pas les sujets ?
Non. Honnêtement, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. D'ailleurs, si ça se passait mal, je pense qu'on jetterait l'éponge.
Oui, ça me paraît compliqué dans une petite commune comme celle-là, si ça se passait mal en famille, au conseil municipal. Armand Rouvier, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes.
Ben écoutez, bonne journée.
7 candidats, comme ça il n'y a pas de souci, des listes à mettre sur europe1.fr, des temps de parole. 7 candidats, 7 de la famille Rouvier pour la famille Brenon. Merci beaucoup Armand Rouvier d'avoir pris quelques minutes pour nous raconter un peu la vie de votre futur conseil municipal sur Europe 1, 6h22.
Europe 1. La météo et le journal de 6h30 présenté par Jérôme Lacroix à suivre.
Mais tout de suite Fanny, vous mangez des cuisses de grenouille, omblines ou...
Rarement.
Mais vous aimez ça ou pas ? Parce que certains sont un peu rebutés.
Ça m'arrive peu.
Moi, je suis très client, très très client. On va parler de grenouilles avec Fanny Agostini. C'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme.
Il est 6h25, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et c'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme, l'heure de retrouver Fanny Agostini. Bonjour ma chère Fanny.
Bonjour Mathieu.
Vous reconnaissez cette ambiance ?
À côté du marais.
Ouais, parce qu'on a hésité entre ça et ça.
ça reste pas pareil.
On s'est dit comment ? On va rester dans l'authentique. Vous savez quoi ?
Je préfère la première version.
Oui, la Crazy Frog, ça date un peu maintenant. Hein, ça rappelle quelques souvenirs. Oui, Crazy Frog, parce que c'est le début de la saison des grenouilles, Fanny Agostini, ce week-end.
Elle arrive.
Et ça ne vous remémore pas que des bons souvenirs ?
Je dois avouer, oui, quand j'étais petite, j'ai été assez traumatisée en fait par le hachoir de mon grand-père quand il scalpait le postérieur de ces pauvres petits batraciens. Alors j'ai eu une répulsion à l'époque qui n'avait rien à voir avec de la sensiblerie, Mathieu, parce que quand on y réfléchit bien, il y a un truc quand même pas très digne dans cette tradition culinaire française, car on mange juste les cuisses, on est d'accord, hein, car seules les cuisses de la grenouille sont utilisées pour notre consommation. Alors j'ai fait un petit calcul, prenez une grenouille rousse de bonne taille, une bête de 100 grammes par exemple, ôtez-lui les pattes arrière et cela ne représente que 25 grammes, ce qui signifie que nous mangeons un quart de la pauvre grenouille, le reste on le jette. Imaginez-vous, Mathieu, manger juste les cuisses de nos poulets et nous débarrasser du reste, c'est assez moyen quand même, non ?
Autre point à souligner, c'est qu'on importe massivement des grenouilles pour notre consommation. On importe ?
Oui, on les importe. Alors, sur notre territoire, la raniculture, c'est-à-dire l'élevage de grenouilles, existe à l'échelle industrielle, mais seulement dans la Drôme et dans la Normandie. Et on n'arrive pas à contenter la demande. Hein. Notre appétit batracivore n'est pas contenté. Une grande partie de ces grenouilles, nous les faisons venir effectivement d'Indonésie, où 100 millions seraient importés en France pour notre consommation annuelle, ce qui accélère en plus la disparition de certaines espèces de grenouilles indonésiennes.
C'est absurde. On a des grenouilles en France. Pourquoi les faire venir d'Indonésie ? Les grenouilles sauvages, Fanny Agostini, parce que là, on a bien effrayé nos amis véganes et on les salue à l'écoute, parce qu'avec l'arrachage de pattes de grenouilles et le hachoir, bon, les grenouilles sauvages, elles sont protégées, elles ?
Elles sont protégées, effectivement. Enfin, en tout cas, celles que l'on consomme en général, notamment la grenouille rousse. Hein. Leur prélèvement mini-naturel est très, très réglementé. La grenouille rousse, d'ailleurs, est la seule à être commercialisée. Si vous vous baladez en ce moment, sachez que près des marais, ruisseaux et étangs, on peut les voir en ce moment parce qu'elles débarquent, elles sortent de leur hibernation, elles sortent des sous-bois. Elles ont fait des kilomètres et elles feront des kilomètres pour revenir à l'endroit exact où elles sont nées, pour se reproduire à leur tour. Une migration à risque aussi pour ces petits amphibiens qui doivent traverser les voies de circulation. Voilà pourquoi des dispositifs sont mis en place par les associations et aussi le Conservatoire des espaces naturels, comme des crapaudromes ou encore des crapauducs, des sortes de passerelles adaptées pour éviter que les grenouilles rousses ne finissent pas en crêpes ou alors en carpaccio sur les pneus des voitures.
Donc
c'est vraiment dur, la vie d'une grenouille.
On est revenu au culinaire sur la fin pour ceux qui apprécieront. Merci beaucoup, Fanny Agostini. On apprend des choses au contact de la nature tous les matins sur Europe 1.
Europe 1, il est 6h29.
6h29 et Laurent Cabrol est avec nous. Ça va, Laurent ?
Oui, ça va pas trop mal. Vous savez que mon humeur est toujours en fonction.
C'est pour ça que je vous demande.
Oui. Bah, je dirais que coup-ci, coup-ça, je suis un peu agité quoi, en ce moment. Et les agitations sont nombreuses dans le ciel. Hein, parce qu'il y a énormément de vent sur toute la France. Ce matin, si l'on regarde les cartes, on s'aperçoit qu'il pleut près de l'Atlantique et dans le sud-ouest et qu'il pleut près des frontières du nord et de l'est. Donc vous voyez au milieu, sur la partie centrale du pays, c'est quand même sur plus de la moitié. Le temps est plus clément. Alors dans la journée, ça va devenir de plus en plus sec sur le nord, la Picardie, la Lorraine, l'Alsace, le Dijonais, la Franche-Comté. Ça sera plus agité encore sur la Bretagne, le Poitou-Charente, le Pays Nantais et l'Aquitaine. Sur le Midi-Pyrénées, le Cantal, le Limousin, alors là, il va pleuvoir. Sur la Normandie et le Berry, comme le Val-de-Loire, peu d'averses, beaucoup de nuages. Et puis, alors, sur la région parisienne, il est tombé quelques gouttes ce matin, ça va s'arranger. Comme sur le Bourbonnais de la région lyonnaise, on peut dire que ce sera pas beau, mais enfin, ce sera lumineux. Et sur l'étoile méditerranéen, un peu de soleil.
Voilà. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Et bonjour, Jérôme Lacroix.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 6h30.
On est tous persuadés qu'on va arriver au stade 3. Disons qu'on est de l'ordre de quelques jours ou d'une ou deux semaines maximum.
Le stade 3, plus haut niveau de lutte contre le coronavirus. Le bilan en France a bondi hier. 7 morts, 423 contaminations.
Le virus touche l'hémicycle. Un député alsacien et un salarié de la buvette de l'Assemblée nationale sont malades.
Dans ce journal, l'égalité homme-femme au travail. Où en est-on dans les entreprises françaises de plus de 1000 salariés ?
Et puis un sacré numéro vert. Les footballeurs de Saint-Etienne battent Rennes 2-1 et se retrouvent en finale de Coupe de France 38 ans après.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'épidémie est, c'est le mot du jour, inexorable.
Parole d'Emmanuel Macron hier face à des scientifiques convoqués à l'Élysée pour un point sur l'avancée du coronavirus en France. Plus de doute, semble-t-il, le stade 3 du plan de lutte sera bientôt activé.
Le stade de l'épidémie, il induit notamment la suspension partielle des transports ou des restrictions drastiques de rassemblement.
Nous y entrerons d'ici 2 semaines maximum, précise le professeur Jean-François Delfraissy, responsable de la coordination des recherches sur le virus. Il participait hier à la réunion à l'Élysée.
On est tous persuadés qu'on va arriver au stade 3 en France, qu'on essaie de gagner parce que du temps, parce que ça permet à la fois de circonscrire les zones déjà les plus touchées, d'une part, et deuxièmement, ça permet aussi peut-être de mieux se préparer pour ce phase 3. Disons qu'on est de l'ordre de quelques jours ou d'une ou deux semaines maximum. On a évoqué le vaccin, mais pour être clair, il faut qu'il y ait une recherche sur le vaccin qui se mette en place. Il n'y aura pas de données sur le vaccin avant de très nombreux mois. Nous n'aurons pas de vaccin tout de suite contre le coronavirus.
Le Covid-19, donc le bilan a bondi hier en France. 7 morts, 3 de plus qu'hier, 423 cas confirmés, plus 138 en 24 heures. C'est la plus forte augmentation en une journée depuis le début de la crise.
Le virus touche l'hémicycle. Jean-Luc Reitzer, député républicain du Haut-Rhin, est en réanimation à Mulhouse, l'un des principaux foyers français depuis un rassemblement évangélique le mois dernier.
Un salarié de la buvette des députés est aussi malade, confiné chez lui. Suspicion chez un employé du restaurant du Palais Bourbon. On attend les résultats du dépistage.
Restaurant et buvette sont fermés. L'Oise reste le département le plus touché, plus d'une centaine de cas, 9 communes confinées. Certains habitants sont très inquiets, notamment les personnes âgées plus vulnérables.
L'inquiétude les pousse même parfois à refuser les visites de leurs aides à domicile. Ces sociétés voient d'ailleurs leur activité chuter ces derniers jours. Théo Manval.
Ingrid Oxylaïf, bonjour.
En ce moment, quand le téléphone sonne dans l'agence d'aide à domicile d'Ingrid à Senlis, c'est plutôt pour des annulations, 10 par jour depuis le début de la semaine.
J'ai peur du corona. Ils le disent directement, j'ai peur du coronavirus. Moi, je suis quand même assez âgé, si j'ai quelque chose, je vais mourir et tout.
Et ils vous demandent en fait d'où viennent les salariés qui viennent leur faire leurs courses, leurs toilettes.
Moi, ils m'ont dit, est-ce qu'il y a des intervenantes de Creil, de Crépy, de tout ça qui vont venir? On essaye de les rassurer en leur disant, on fait quand même attention, on se lave les mains, on respecte les règles d'hygiène. Il n'y a aucune raison d'être contaminé.
Mais ça n'empêche pas des annulations de la part de clients plus jeunes aussi, comme cette dame de 47 ans qui sort d'une hospitalisation.
Moi, je dois faire très très attention à l'hygiène, donc à la maison, c'est drastique.
Et c'est encore pire pour la société d'aide à domicile que dirige Eddy, située à Crépy en Valois, moins 10% d'activité.
On ne comprend pas, quoi. On a l'impression que c'est Tchernobyl, il y a la peste. Il faut continuer à vivre, juste prendre les précautions adéquates et relativiser un petit peu.
En rappelant, dit-il, le nombre de morts de la grippe, par exemple, depuis le début de l'hiver, 72 au niveau national.
Et puis l'Italie rencontre, semble-t-il, bien des difficultés à contenir l'épidémie. Hausse spectaculaire des décès hier, 41 supplémentaires pour un total désormais de 148 morts. Rome annonce un plan de 7,5 milliards d'euros pour faire face.
Europe 1, il est 6h34.
Dimanche, journée internationale du droit des femmes et on se demande ce matin où en est l'égalité femmes-hommes dans nos entreprises. Publication aujourd'hui sur le site du ministère du Travail de l'index égalité.
Et Muriel Pénicaud, dans notre studio hier, en disait déjà quelques éléments. Les entreprises de plus de 1000 salariés y sont notées sur cet index, sur cette question de l'égalité au travail. Une note sur 100, les critères détaillés par Olivier Savin.
Et notamment prise en compte l'augmentation du salaire des femmes de retour de congé maternité.
C'est la loi qui le dit. La salariée qui revient dans l'entreprise après un congé maternité bénéficie obligatoirement des augmentations générales qui sont intervenues quand elle n'était pas là, mais aussi de la moyenne des augmentations individuelles qui ont été accordées dans l'entreprise pendant son congé. Le respect de cette règle est l'un des 5 critères pris en compte pour calculer ce fameux index égalité professionnelle. Si votre entreprise a bien augmenté l'an dernier toutes les femmes qui sont revenues de congé maternité, elle obtient 15 points sur les 100 de l'index. Si elle n'a pas respecté cette règle, même si l'oubli ne porte que sur une seule femme, c'est 0 point. En 2018, on avait découvert qu'un tiers des entreprises de plus de 1000 personnes n'étaient pas dans les clous sur ce critère. Cette année, 9 sur 10 sont dans les clous. Illustration, dit le ministère du Travail, de l'effet réputationnel de cet index égalité professionnelle. Piqué au vif l'an dernier, les entreprises ne se sont pas fait prier pour corriger le tir.
Merci Olivier Samin, et j'insiste, on va insister tout au long de la matinée sur cette journée internationale des droits des femmes. Nous parlions dans le journal de 6h de la précarité menstruelle. Notez ce rendez-vous, 19h ce soir. Un document exceptionnel, tout en son, réalisé par Sébastien Guidis, narré par Laure d'Autriche. Nous allons revenir sur les combats féministes, des premiers combats de 1955 à nos jours. La libération de la parole, document à retrouver sur Europe 1 ce soir, dans le grand journal du soir de Nathalie Lévy.
Il est 6h36.
Une frénésie à Saint-Étienne. Au Saint-Étienne, au Saint-Étienne. Les footballeurs stéphanois sont de retour.
Pardonnez-moi, vous avez une voix beaucoup plus aiguë quand vous mettez à chanter.
Mais oui, je peux aller assez haut. Bon. Les footballeurs stéphanois sont de retour en finale de la Coupe de France, 38 ans après. En 1982, Michel Platini a emmené l'équipe. Hein, et les joueurs de 2020, vous l'avez entendu, ont fait la fête dans le vestiaire hier. Après le succès à l'arraché en toute fin de match, 2-1 contre Rennes, le tenant du titre.
Finale le 25 avril contre le Paris Saint-Germain au Stade de France.
Le sport sur nos écrans de télévision, c'est quasiment toujours payant aujourd'hui. Les mordus ne veulent plus payer l'addiction ou en tout cas dépenser le moins possible. Alors ils visionnent les matchs sur des sites internet pirates aux grandes dames des diffuseurs, beIN Sport ou Canal+, notamment.
Ces chaînes ont d'ailleurs attaqué en justice 5 hommes devant le tribunal de Rennes qui avaient mis sur pied une trentaine de sites internet de diffusion illégale des rencontres. Charles Guyard.
Considérable, le qualificatif parsème la plaidoirie de Maître Villemant, défenseur des intérêts de Canal+, qui à cause du streaming illégal et ses 2 millions de consommateurs mensuels auraient perdu 1 million d'abonnés ces dernières années. Tout cela s'additionne, se croise et se chiffre à 29 900 000 euros réclamés par la chaîne cryptée. beIN Sport et RMC Sport, les deux autres parties civiles, n'ayant pas encore quantifié leur préjudice. Pour le principal prévenu, on l'appellera David, qui s'est excusé. Cette somme n'est pas seulement considérable, elle est surréaliste.
Ils les auront jamais. Même si ce serait qu'un million d'euros, pour moi c'est inattendu. Un million d'euros, c'est inatteignable. 500 000, c'est inatteignable.
Inatteignable, c'est aussi ce que croyaient être les 5 prévenus, cachés derrière des pseudos, et surtout leurs bénéfices dissimulés dans des comptes aux îles Vierges, à Hong Kong ou en Suisse. Car l'activité était lucrative grâce à la publicité. 230 000 euros entre 2014 et 2018, d'après l'enquête. L'image du Robin des Bois des programmes sportifs s'effrite. Vous vouliez aux riches pour donner aux pauvres, interroge le juge. Il y a une majorité de gens qui ne peuvent pas se payer d'abonnement, répond un prévenu. Le procureur a requis jusqu'à 100 000 euros d'amende, une somme qui s'ajoutera aux réparations considérable réclamée par les chaînes au civil. Rennes, Charles Guyard, Europe 1.
Le petit ballon glissé pour Mbappé.
Le quatrième.
Oui, le foot, le sport, le top, c'est à la radio, on est d'accord. Hein.
Oui,
c'est gratuit.
Et c'est gratuit et on vibre quand même nettement plus.
Giroud, plein axe qui lui glisse ce ballon de l'extérieur.
Ça, c'est sur Europe 1. Merci Jérôme Lacroix, c'était le journal de 6h30, un nouveau journal à 7h tout à l'heure avec Marion Calais. Nous allons poser la question de ces cas de contamination au coronavirus à l'Assemblée nationale. Il est 6h38.
Et dans un instant, votre invité Mathieu Béliard.
C'est un philosophe de l'environnement. Il s'appelle Glenn Albrecht et il a mis au point toute une théorie selon laquelle notre humeur, nos émotions sont impactées par le réchauffement climatique. Il arrive aussi avec tout un nouveau lexique. Est-ce que vous savez ce que sont le Thierry, la mermérosité, la solastalgie, la symbiosie, tous ces nouveaux mots qu'il a inventés pour finalement raconter ce monde qui change? À tout de suite.
Europe 1, il est 6h41, votre invité Mathieu Béliard et Glenn Albrecht, auteur des Émotions de la Terre aux éditions Les Liens qui Libèrent.
On écoute Le Monde Changer ce matin avec Glenn Albrecht. Vous êtes philosophe de l'environnement. D'abord, bonjour.
Hello there.
Et c'est quoi un philosophe de l'environnement?
A philosopher of the environment is...
Un philosophe de l'environnement,
somebody who's seeking,
c'est quelqu'un qui cherche un sens à la vie humaine.
Between humans and nature.
En se fondant sur les relations entre l'être humain et la nature.
Votre thèse dans ce livre, c'est que les crises écologiques ont un impact sur notre psyché, nos émotions, notre santé mentale finalement.
L'évolution a exigé que nous fassions partie intégrante de la nature.
And our emotional well-being,
notre bien-être émotionnel est vitalement relié à un écosystème sain et à une humanité saine aussi.
Est-ce que c'est d'abord ce mal-être? Est-ce que c'est d'abord parce que par le passé, on s'est déconnecté de la nature ou au contraire, parce que justement, aujourd'hui, on aspirerait à la retrouver?
We are unwell mentally,
nous ne sommes pas bien mentalement, émotionnellement pour l'instant, parce que nous nous sommes déconnectés de notre passé écologique.
So we need to reconnect to
et nous devons nous reconnecter, nous relier à notre vie d'espèce avec les autres espèces qui vivent sur cette terre.
Dans votre livre « Les émotions de la Terre », vous avez réalisé un travail de linguiste, finalement, en inventant de nouveaux mots qui collent à ces nouvelles réalités. En France, Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». C'est dans cette dynamique que vous vous inscrivez?
Well, I hope I'm doing Camus some justice by...
Eh bien, j'espère que je rends justice à Camus en nommant correctement les sentiments, les émotions, qu'il faut reconsidérer nos concepts du passé et les mots que nous utilisons. Parce que nous vivons désormais dans un monde qui est différent de celui qui existait, alors que nos langages, eux, n'ont pas bougé. Et la raison pour laquelle j'ai forgé des nouveaux mots pour un nouveau monde, c'est que ce nouveau monde a des propriétés qui nécessitent un nouveau cadre conceptuel, un nouveau langage conceptuel pour mieux le décrire.
Alors, quelques mots choisis dans ce lexique qui est le vôtre. Le premier, c'est celui qui est repris partout, y compris par les scientifiques du GIEC. C'est celui qui vous a rendu célèbre. La solastalgie, c'est quoi ?
La solastalgie, c'est l'expérience des changements négatifs de l'environnement. C'est semblable au concept de nostalgie. Un mal du pays, en quelque sorte, éprouvé par quelqu'un qui était loin de chez lui. Mais pour la solastalgie, la personne est déjà chez elle. Et en fait, c'est son lieu qui la quitte. Donc il fallait un nouveau mot pour décrire cette condition.
Tout n'est pas négatif ou sombre. Il y a aussi, par exemple,
C'est une expérience positive de votre environnement. De même qu'un surfeur pourrait décrire la vague ultime, la plus belle des vagues. C'est l'expérience d'unicité avec le monde autour de vous. Ça pourrait être décrit comme un sentiment parfait de ne faire qu'un avec le monde autour de vous.
Dans ce livre, nos auditeurs pourront découvrir l'éco-agnosie, la terra furie ou encore l'adjectif psychothératique. Il y a un mot que j'ai trouvé beau dans le sens de l'invention d'un nouveau mot, c'est la mermérosité. Mais ça veut dire quoi ?
Ça signifie, ça vient des racines grecques. C'est un état où on anticipe un avenir qui sera négatif, non désirable. Cet état de mermérosité signifie qu'on a à l'esprit un état à venir qui est donc très négatif. Et ça vous déprime.
Est-ce que vous aspirez, et j'en terminerai par ce vocabulaire-là, est-ce que vous aspirez à l'avènement d'une symbiocratie ?
L'idée qu'il faut être dirigé différemment prend en compte les intérêts des autres formes de vie. Ça signifie que la démocratie, telle que comprise par la règle des humains, par les humains, pour les humains, doit être étendue. J'ai créé ce terme « symbiocratie » parce que le « symbios » signifie vivre ensemble. Il faut que la symbiocratie remplace la démocratie. Donc, ce néologisme a été créé pour accroître la démocratie, pour y inclure les non-humains dans notre gouvernance.
Sur Europe 1 le matin, vous écoutez Le Monde Changé et grâce à Glenn Albrecht, on a de nouveaux mots pour vous le raconter. Les émotions de la Terre, Glenn Albrecht, aux éditions Les Liens qui libèrent, votre travail justement sur l'impact du changement climatique sur notre santé mentale. Merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin.
It was a pleasure. Thank you for having me too.
C'est un plaisir et merci de m'avoir invité pour parler à vos auditeurs.
Thank you.
La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard.
J'espère juste que ce petit moment de philosophie, de poésie vous a plu et je remercie Michel Zlotowski pour la traduction. La revue de presse internationale tout de suite. Nous partons pour l'Égypte, la Côte d'Ivoire et l'Italie.
À 6h50 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Béliard.
Le député du Haut-Rhin, Jean-Luc Retzer, hospitalisé en réanimation à Mulhouse, touché par le coronavirus. Un salarié de l'Assemblée nationale est également touché. Un employé de la buvette, suspicion d'un troisième cas, un serveur du restaurant du Palais Bourbon. Le bilan a bondi hier en France, 7 morts, 3 de plus qu'hier, 423 cas confirmés. Ça c'est 138 de plus en 24 heures. Des heures en marge d'une réunion publique d'Édouard Philippe hier soir au Havre, près de la salle des fêtes. Le Premier ministre candidat au municipal, plus de 300 manifestants s'étaient rassemblés
pour protester contre la réforme des retraites et le 49-3. Et puis enfin, un cessez-le-feu est en théorie en vigueur depuis minuit en Syrie. Russes et Turcs se sont mis d'accord hier pour une trêve à Idlib, ville rebelle dans le nord-ouest syrien.
La météo est une nouvelle journée agitée avec des pluies qui s'en vont par le nord-est, des nouvelles qui arrivent par la Nouvelle-Aquitaine avec du vent, le massif central touché par le mauvais temps. Le soleil se fera en revanche une place de la Normandie à la région lyonnaise et près de la Méditerranée. Température cet après-midi, 9 à Cabourg, 11 à Gap et Bordeaux. C'est la revue de presse internationale sur Europe 1.
Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. François Hume est en Côte d'Ivoire pour Europe 1. Bonjour François.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle chez vous ?
Ce qui fait la une de tous les médias, c'est l'annonce surprise hier matin d'Alassane Ouattara à Yamoussoukro. Le président ivoirien a indiqué devant les parlementaires réunis en congrès qu'il ne briguerait pas de troisième mandat et a assuré vouloir transférer le pouvoir à une jeune génération. La RTI, la chaîne nationale, a diffusé l'intégralité de ce discours et les spectateurs ont pu observer les députés et sénateurs se lever d'un bond, certains incrédules, d'autres applaudissant à tout rompre au moment de cette annonce. Le journal pro-gouvernemental Fraternité Matin écrit « Alassane Ouattara quitte le pouvoir avec élégance », tandis que nombre de proches du président saluent un moment historique, une leçon pour tous les présidents africains. D'autres ironisent, comme Stéphane Kipré, le gendre de Laurent Gbagbo, sur le site d'information Coassi. Avec cette annonce, M. Ouattara vient pour la première fois en 10 ans de respecter la constitution de la Côte d'Ivoire.
Merci François Hume en Côte d'Ivoire. Donc Ariane Lavrieux est en Égypte. Bonjour Ariane.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qu'on trouve à la une de la presse chez vous ?
Une pyramide, celle du pharaon Djoser, construite il y a plus de 4700 ans. C'est celle qui n'est pas toute lisse, mais à sa façade en escalier. Alors pourquoi s'y intéresser aujourd'hui ? Parce qu'elle était en restauration depuis près de 15 ans et qu'enfin les travaux sont terminés. Elle va rouvrir au public dans quelques jours. Les photos montrent des tunnels exigus pour accéder au tombeau, mais qui sont totalement sécurisés, assure le site d'information Egypt Today. Précisant que c'est la plus vieille pyramide du monde, en tout cas celle qui est encore intacte parce que les archéologues en ont trouvé d'autres au Brésil ou en Indonésie. Et c'est aussi le plus gros projet de restauration du ministère des Antiquités qui avait été critiqué au départ par l'UNESCO pour ne pas respecter vraiment la forme originelle. Aujourd'hui, c'est oublié. La presse égyptienne assure que les experts ont validé les travaux.
Ariane Lavrieux en Égypte. Blandine Hugonnet est à Rome pour Europe 1. Bonjour Blandine.
Bonjour Mathieu.
À la une en Italie.
Eh bien, ce sont les histoires de cœur de Silvio Berlusconi. Après 12 ans de relation, l'amour avec Francesca, c'est fini, titre le Giornale. La presse People italienne le confirme, la rupture a été officialisée par un communiqué du parti de l'ancien homme fort d'Italie. Les paparazzi l'ont immortalisé devant un hôtel suisse avec une nouvelle compagne. Le scoop de la semaine, le cavaliere a quitté Francesca, de 50 ans sa cadette, pour une femme encore plus jeune, s'amuse le magazine Métropolitane. Mais qui est cette belle blonde, s'interroge Il Messaggero. Tout juste trentenaire, Marta est une députée, membre de longue date du parti du Mania de la Presse. Une histoire d'amour, pas seulement, juge la Stampa, qui voit un calcul politique pour contrôler Berlusconi, célèbre pour ses frasques sexuelles et ses multiples procès. Opération réussie, selon le Corriere, la jeune Marta s'est déjà installée dans la villa de son nouvel amant de 83 ans.
Merci Blandine Hugonnet, nous étions donc en Italie, en Égypte, en Côte d'Ivoire sur Europe 1, c'est la revue de presse internationale tous les matins.
Europe 1, le journal à 7h et la météo avec Laurent Cabrol.
Mathieu Noël s'installe en studio également, à tout de suite.
6h56, la matinale d'Europe 1 avec et Mathieu Béliard.
Bonjour, le studio se remplit, ils sont là autour de la table. Anis Mbida, Virginie Fulpin, Axel de Tarlet, Mathieu Noël, bonjour à tous.
Bonjour Mathieu.
Ça va ? Tout va bien ce matin ?
Très bien.
Allez, bon. Le programme de la demi-heure qui va démarrer, 7h15, l'innovation à Nice Mbida.
Oui, une fois n'est pas coutume, on va parler de mode, et plus précisément de vêtements dont les fibres peuvent se transformer en ampoules. Et vous verrez, c'est pas juste pour faire joli.
Oui, c'est peut-être pour paraître lumineux, je sais pas. 7h20, le monde bouge, Axel de Tarlet.
Première victime du coronavirus dans le monde de l'entreprise, la compagnie aérienne britannique Flybe met la clé sous la porte, d'autres compagnies pourraient suivre. Et c'est intéressant parce que l'aérien, qui est le symbole de la mondialisation, est attaqué de toutes parts en ce moment.
7h25, l'édito sport, Virginie Fulpin.
Et Saint-Etienne est en finale de la Coupe de France de football pour la première fois depuis 38 ans. Et si c'était un déclic, voilà comment une saison de cauchemar pour les Verts peut se transformer en rêve éveillé.
Bah, peut-être un titre au bout, qui sait. Mathieu Noël, 16h-18h, c'est l'équipe est sauvage.
Bonjour à tous les amis. Tout à l'heure, nous serons comme chaque vendredi et jusqu'à ce que ça nous soit interdit pour cause de coronavirus en public. Et je vous propose de deviner qui est mon invité. Petit indice en musique. Bon, j'ai composé ça rapidement sur un coin de table pour vous.
Ombline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, aux yeux de Cabrol qui brillent, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style. Papa Gotti, je me permets de dire ça. Bref, oui, vous l'avez peut-être reconnu quand même. MC Solar sera avec nous dans l'équipe Et Sauvage pour nous parler du retour des enfoirés ce soir sur TF1. Soirée événement pour la bonne cause. Parmi les petits nouveaux cette année, Vita, Elena Noguera, Alice Paul, Black M, Boulevard Désert et Ombline Roche.
You can go your own way.
Non, on me fait signe que non, en fait, pas Ombline Roche, l'année prochaine peut-être.
Mathieu Noël, l'équipe Et Sauvage de 16h à 18h. Et puisque vous aimez la musique, on en a encore ce matin. Mister Cumbia, coronavirus, ça vient du Mexique. Je sais pas pourquoi j'ai essayé l'accent. Ça cartonne en Amérique latine. Là, du côté de l'Asie du Sud-Est, c'est au Vietnam qu'on a inventé cette chanson.
Mexicaine.
Ah ouais?
Ah ouais.
Non, non, mais je suis quand même beaucoup plus sur.
Je vous voyais très bien avec la moustache là tout à l'heure.
Mais là, il y a un truc un peu dansant dans la chanson vietnamienne qui a pas. Si, remarque.
Ah si, on a la version mexicaine, on danse.
Bon, et quand est-ce qu'on a une version française? Ce matin, il s'appelle Mister Atlas, il est youtubeur et il a repris The Weeknd. La France a un incroyable talent.
Reste encore à le trouver.
Encore la version vietnamienne, les amis. 6h59, une petite chanson, Laurent Cabrol.
Le temps sera très agité, venteux, pluvieux. On va pas se régaler, mais demain ce sera mieux.
C'est nickel.
Ah, pas mal, hein.
Ah ouais, je crois que c'est un alexandrin en plus. Bon, alors, ça y est, bon. C'est fait du coup.
Oui, du coup, c'est fait, on a tout dit. Donc, un temps très agité sur la France, avec des pluies près de l'Atlantique, des pluies dans l'Est, et puis des pluies dans le Nord, enfin dans le Nord, sur les frontières du Nord. Bref, c'est une journée très agitée, un peu comme hier, mais avec tout de même des chances d'éclaircies. Il y en aura sur Paris, il y en aura sur la Normandie, pas du tout sur la Normandie, sur Paris, oui. Et sur la Normandie, la Vallée de la Loire et le Berry, ce sont plutôt des averses qui vont s'imposer. Sur le Midi-Pyrénées, le Limousin, le Cantal, ce sera là un temps vraiment très, très, très mauvais, avec des pluies fréquentes. En Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine, du vent, attention, beaucoup de vent. Et puis sur le Nord, la Picardie, la Lorraine, l'Alsace, le Dijonais, la Franche-Comté, ce sera un petit peu plus sec cet après-midi. Voilà, ne vous fiez pas au temps qu'il fait sur Paris depuis ce matin, c'est très humide, mais dans la journée, ce sera beaucoup plus agréable. Les températures maximales entre 9 et 13 degrés, sans tenir compte du vent, qui, je le répète, sera particulièrement violent aujourd'hui. Soyez prudents, des vents autour de 100-110 km/h au pied des Pyrénées.
Merci beaucoup Laurent Cabrol et bonjour Marion Calais.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, écoutez le monde changer.
Europe 1, il est 7h.
Vous avez à l'Assemblée nationale des représentants de tous les territoires de France. Donc il n'est pas anormal que si le virus se propage partout en France, on le retrouve à l'Assemblée nationale.
Et quel symbole, le coronavirus qui fait son entrée au Palais Bourbon, un député infecté et hospitalisé, ainsi qu'un salarié.
Face au virus, les voyagistes s'alarment et les voyageurs s'interrogent. C'est peut-être votre cas. Est-il possible de se faire rembourser un voyage dans une zone infectée? On posera la question au médiateur du tourisme dans un instant.
Des humanitaires qui prennent peur en Grèce, Europe 1, à Lesbos, où malgré l'afflux de migrants, certains associatifs se voient contraints de fuir face à la violence de certains habitants.
Les gens en ont marre et surtout maintenant avec toutes ces choses racistes qui se passent dans le pays, c'est très compliqué de dire qui sont les méchants et qui sont les gentils.
Dans ce journal aussi, le procès Fillon entre moments d'hésitation et de confiance et une immersion au cœur des œuvres de Dali au Beau de Provence.
Dali, c'est une œuvre d'art de lui-même et il s'est mis en scène pour montrer comme la vie n'est pas séparée de l'œuvre.
Salvador Dali au Carrière de lumière au Beau de Provence. Visite à suivre à 7h40. Votre invité Mathieu.
Le coronavirus et l'événementiel avec le directeur général de l'Accor Hôtel Arena, Bercy, Nicolas Dupeux, 8h15. Sonia Mabrouk reçoit l'eurodéputé Rassemblement National, Nicolas Bay. Bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais.
Après avoir déjà freiné l'activité économique, le coronavirus va-t-il perturber la vie politique dans l'Hexagone?
On a appris hier soir la contamination d'un député à l'Assemblée nationale. Les précisions pour Europe 1 d'Aurélie Herbemont.
Un député LR alsacien est hospitalisé en réanimation. Un salarié de la buvette des députés est aussi infecté et confiné à son domicile. Un deuxième salarié, travaillant lui au restaurant, est hospitalisé depuis hier, alors qu'on attend encore le résultat de son test. Le président de l'Assemblée en a informé tous les députés et personnels. Dans un courrier, Richard Ferrand rappelle les consignes. Stricte observation des barrières sanitaires, restriction de la vie sociale, contrôle de la température. Tout est sous contrôle, assure-t-on à la questure. L'Assemblée a d'ailleurs décidé de fermer aujourd'hui le restaurant et la buvette, alors que jusqu'à hier, les députés siégeaient sur la réforme des retraites.
Et c'est à Mulhouse, un des foyers du virus, que le député Jean-Luc Reitzer a été hospitalisé. Dès hier soir, ses collègues, alsaciens notamment, ont exprimé leur solidarité à l'image de Bruno Fuchs, député MoDem du Haut-Rhin.
On est tous derrière lui, on pense tous à lui et à sa famille. Et on espère qu'il va s'en sortir très très vite. En Alsace, c'est une terre très solidaire, quelles que soient les divergences politiques que l'on peut avoir. C'est avant tout l'identité alsacienne et à ce titre-là, on le souhaite bon rétablissement. C'est inquiétant certainement, mais pas plus que quand c'est dans l'Oise ou pas plus que quand c'est un rassemblement de l'Église évangélique. Donc c'est quelque chose de presque symbolique, mais vous avez à l'Assemblée nationale des représentants de tous les territoires de France. Donc il n'est pas anormal que si le virus se propage partout en France, on le retrouve à l'Assemblée nationale. Le fait qu'il s'y trouve me paraît assez, sans dire logique, mais en tout cas rationnel, compte tenu de sa propagation dans le reste de la France.
Le député MoDem Bruno Fuchs se joint pour Europe 1 par Élise Danjean.
Et on a appris également hier que Strasbourg n'accueillera pas la session plénière du Parlement européen la semaine prochaine. Ce sera à Bruxelles où les cas de contamination sont moins nombreux.
En revanche, pas question que le coronavirus ne perturbe la vie démocratique. Le gouvernement l'a redit hier, le report des municipales n'est pas à l'ordre du jour, même si selon les mots d'Emmanuel Macron, une épidémie est de toute façon inexorable. Hier, 138 nouveaux cas ont été annoncés et 3 nouveaux décès.
Et c'est un secteur qui souffre particulièrement depuis le début de l'année, celui des voyagistes. Ils demandent à être reçus de manière urgente par le gouvernement. Près de 25% de baisse d'activité pour les tours opérateurs le mois dernier.
Des réservations moins nombreuses et des annulations. Bonjour Ali Dalwardi.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de la médiation tourisme et voyage. On voulait être très concret avec vous ce matin. Pour tous ceux qui ont prévu dans les prochaines semaines de partir en vacances, est-ce qu'on peut invoquer cette épidémie mondiale pour obtenir un remboursement sans frais?
Alors, c'est possible, mais dans certaines conditions. Et les critères d'annulation et de remboursement sans frais sont objectifs. C'est-à-dire par opposition à un critère qui est particulièrement subjectif, qui est la peur. La peur de partir et la peur de la contamination.
Mais ça, alors, dans quelles conditions? C'est-à-dire le nombre de cas dans le pays où on devait se rendre, la situation dans le pays où on devrait se rendre, comment ça se passe?
Alors, vous avez deux cas de figure en fonction de la prestation qui a été achetée ou qui doit être consommée. Vous avez, par exemple, pour tout ce qui est vol sec, c'est-à-dire j'ai acheté un billet d'avion pour telle ou telle destination, le critère objectif qui doit être pris en compte, ce sont les recommandations du Quai d'Orsay, et notamment les destinations qui seraient formellement déconseillées. C'est-à-dire que j'ai acheté un billet d'avion pour la Chine notamment, il est logique que je puisse l'annuler et être remboursé par la compagnie aérienne.
Il y a certains transporteurs qui ne veulent sans doute pas être pénalisés, comme Air France, qui ont assoupli leurs conditions d'annulation pour les voyages jusqu'à fin mai. Est-ce que c'est une initiative souhaitable selon vous ?
Absolument, on est clairement dans ce qu'on va considérer être le principe de précaution, et en tout état de cause, une compagnie aérienne ne maintiendra pas un vol sur une destination qui serait formellement déconseillée par le Quai d'Orsay, et donc permettra ce genre d'ajustement commercial. La difficulté réside essentiellement dans les cas de paquets, c'est-à-dire que les gens qui auraient acheté un vol plus un hôtel, ce qu'on appelle les forfaits touristiques, où là, les critères sont un peu plus flous. C'est-à-dire qu'on considère qu'un consommateur pourra annuler. Ça, c'est un nouveau droit qui lui est ouvert depuis juillet 2018 et la mise en place d'une directive européenne. Si un événement exceptionnel arrive au lieu de destination et a sur le contrat initialement prévu un impact important.
Merci.
Vous voyez que,
oui.
Voilà.
Et on va suivre avec vous et je vous remercie Khalid El-Wardi d'avoir répondu en direct ce matin dans le journal de 7h d'Europe 1, secrétaire général de la médiation tourisme et voyage, en direct avec nous ce matin.
Le coronavirus qui fait aussi trembler les producteurs de pétrole et c'est votre éclairage éco. Bonjour Nicolas Barret.
Bonjour Marion.
L'OPEP est actuellement réunie à Vienne pour tenter d'enrayer la baisse des cours.
Oui, vous savez, le pétrole c'est le baromètre de l'économie mondiale et ce baromètre est en train de se bloquer sur le mot récession partout, en Europe, en Chine. Récession qui signifie chute de la demande, donc chute des prix si les producteurs ne réduisent pas fortement leur production. Alors ces pays producteurs, en gros, ils se divisent en deux groupes. Vous avez les 13 pays membres de l'OPEP et puis il y a 10 autres pays, dont la Russie, qui sont moins disciplinés. Hier, les 13 de l'OPEP se sont réunis donc pour présenter un front uni face aux 10 autres et surtout pour les convaincre de réduire la production de 1,5 million de barils par jour pour enrayer l'effondrement des cours.
Et ça a des chances de marcher ?
La balle est dans le camp maintenant de la Russie qui traîne les pieds. Elle voudrait que les autres réduisent la production, mais surtout pas elle, avec un argument, à quoi bon faire des efforts puisque dans le même temps, les États-Unis n'en ont rien à faire et inondent le marché mondial avec du pétrole de schiste. Alors on saura dans la journée si Vladimir Poutine décide de faire un geste. En attendant, les cours chutent. 24% de baisse depuis le début de l'épidémie. On est autour de $50 le baril actuellement. C'est très bien pour les automobilistes. C'est une catastrophe pour les gros producteurs, notamment l'Arabie Saoudite. Vous savez, on croit qu'elle est très riche. Mais figurez-vous que le budget de l'État saoudien est à l'équilibre si les cours du pétrole sont au-dessus de $80. On est à 50. Donc vous voyez, on en est très loin.
C'était l'éclairage de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Merci.
Frontières maritimes et terrestres bouclées en Grèce depuis que la Turquie a ouvert les voies vers l'Europe aux migrants. Il y a une semaine, Athènes tente de contenir l'afflux. Et nous étions hier matin à la frontière gréco-turque. Aujourd'hui, certaines ONG accusent la Grèce de recourir à la manière forte. Sur le terrain, les humanitaires craignent même pour leur vie. C'est ce qu'a constaté à Lesbos l'envoyé spécial d'Europe 1, Pierre Herbulot.
Un gigantesque bateau militaire est ancré à l'entrée du port, à l'intérieur des centaines de migrants bientôt reconduits à la frontière via le continent. Pourtant, à Lesbos, les humanitaires n'ont pas la force de s'insurger. Ils sont trop occupés à éviter de se faire tabasser par les milices d'extrême droite qui font la loi sur l'île, raconte cet habitant.
Oui, ils déambulent en ville. Ils vont au camp de Moria et disent « Montre ton visage, sinon tu ne passes pas ». Je trouve ça dangereux. Ces gens ont pris le pouvoir.
Presque tous les associatifs ont pris peur et se sont enfuis, confie l'un d'entre eux. Cette situation, Christos l'aurait dénoncée il y a quelques années. Aujourd'hui, il ne sait plus quoi en penser.
Les deux camps ont les mêmes droits. Je ne veux blâmer personne. Les gens en ont marre et surtout maintenant, avec toutes ces choses racistes qui se passent dans le pays, c'est très compliqué de dire qui sont les méchants et qui sont les gentils.
Loin de ces considérations, un nouveau bateau rempli de migrants a accosté au nord de l'île hier soir. Sur cette même crique, un enfant est mort noyé en début de semaine. Au port de Mytilène, sur l'île de Lesbos, Pierre Herbulot, Europe 1.
Votre journal se poursuit dans un tout petit instant. Un procès méthodique et une défense revigorée. Le procès Fillon dans sa dernière ligne droite. Compte rendu d'audience à suivre.
Il est 7h11, la suite du journal sur Europe 1. Mathieu Béliard, Marion Calais.
5 jours d'audience en 2 semaines. Le procès Fillon autour des emplois présumés fictifs de Pénélope arrive bientôt à son terme. Les réquisitions sont attendues mardi prochain.
Bonjour Salomé Legrand.
Bonjour.
Vous avez suivi toutes les audiences pour Europe 1 et il faut bien le dire, le couple a d'abord eu du mal à convaincre.
Oui, Pénélope Fillon surtout, dont le premier interrogatoire a plongé toute l'assistance dans un profond malaise. À la barre, l'épouse se tasse petit à petit sous son serre-tête, bafouillant, hésitant, incapable de détailler ce qu'elle faisait concrètement dans l'équipe de son mari. « Nous avons mal pour vous, madame », finit même par lâcher le procureur. Puis il y a eu la laborieuse étude des éléments de preuve pourtant fournis par leurs avocats. Une grosse valise noire de courriers en tout genre agrémentée de quelques photos. Pénélope à l'hôpital, Pénélope à une course hippique. Même François Fillon, campé 1 mètre derrière elle dans le prétoire et qui bondit dès qu'elle patauge, ne peut que répéter. Sa contribution était immatérielle, un genre de supervision de donneuse d'ordre.
Mais la défense, Salomé, a repris des couleurs hier. Hein.
Absolument, après avoir aligné à la barre 3 témoins parfaits, les fidèles historiques qui ont décrit à l'unisson l'aide fondamentale de Pénélope au sein de leur petite équipe sartoise pour personnaliser les courriers et garder le lien avec les locaux, les avocats dégainent 34 attestations dites spontanées. Elles décrivent par le menu l'activité de madame auprès des associations de la circonscription. Pourquoi ne pas les avoir fait entendre pendant l'instruction, attaque le parquet. Parce que tout était à charge, s'emporte François Fillon, qui ne pourra pas dire la même chose du procès, tant la présidente du tribunal a pris soin d'étudier scrupuleusement le moindre élément au dossier.
Et vous continuerez de suivre ce procès pour nous, Salomé Legrand.
Les hommes sont de meilleurs dirigeants politiques ou d'entreprises que les femmes. Aller à l'université est plus important pour un homme que pour une femme.
Voilà,
en 2020, certains des préjugés dont souffrent encore les femmes. Étude des Nations Unies qui cite ces phrases. Les Nations Unies qui révèlent que près de 90% de la population mondiale, tous sexes confondus d'ailleurs, a des préjugés envers les femmes.
Une émission spéciale dans le 18h-20h de Nathalie Lévy ce soir. La Journée internationale des droits des femmes, c'est dimanche et nous vous proposons un podcast exceptionnel. Vous entendrez ce document avec les archives d'Europe 1 de 1955 à nos jours, les premiers combats, les premières victoires, la pilule, l'avortement et aujourd'hui la libération de la parole. Plateau d'invités pour Nathalie Lévy, ensuite avec Marlène Schiappa, Yvette Roudy ou encore Caroline Fourest.
Une flânerie quasi psychédélique, flânerie dans les carrières de Lumière au Beau de Provence, une exposition numérique et immersive pour évoluer au milieu des œuvres de Salvador Dali. Ouverture aujourd'hui et visite aux côtés du scénographe avec Nathalie Chevance pour Europe 1.
Dali, c'est une énigme. Lui-même disait « rentrer dans mon cerveau ». Mais son cerveau, c'est un labyrinthe.
Et c'est sous terre, dans la roche calcaire, sur 7000 mètres carrés de surface, que l'œuvre de Dali explose aujourd'hui sur les parois des carrières. Du sol au plafond, immersion totale et gigantesque dans cet univers surréaliste sur la musique des Pink Floyd. Déambulation pour comprendre l'artiste grâce à une scénographie tout en mouvement, signée Gianfranco Iannuzzi.
On a voulu faire sortir la multitude des facettes dans son surréalisme. C'est un assemblage d'idées qu'apparemment ils n'ont rien en commun, mais qui sont mis en place avec une méticulosité énorme.
Et on le voit aussi, hein, Dali. On voit son visage, on le voit s'exprimer, on le voit vivre.
Dali, c'était un personnage, c'est une œuvre d'art de lui-même. Et il s'est mis en scène face à la caméra pour montrer comme la vie n'est pas séparé de l'œuvre.
Des tableaux, des films, des photos, 500 œuvres projetées par 150 caméras dans des carrières datant de l'Antiquité pour une plongée dans un monde fantastique.
Et vous avez le temps hein, pour cette exposition.
Ça fait envie, là, en tout cas.
Au Beau de Provence, ça fait très envie. Ouais. C'est jusqu'en janvier 2021.
Merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 7h à 7h30. Nous allons retrouver Hélène Zélani pour évoquer le monde du spectacle chamboulé par ce coronavirus. La Halle Tony Garnier à 7h30 et mon invité le patron de Bercy à 7h40 tout à l'heure.
Sur Europe 1, innovation du jour avec Anissa Mbida.
Bonjour Anissa.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Innovation dans le textile. Ce matin, il faut s'attendre à une toute nouvelle génération de vêtements, puisqu'on a réussi à créer le premier tissu naturellement lumineux.
Oui, naturellement lumineux, c'est-à-dire qu'on n'a pas triché hein, en intégrant, je ne sais pas moi, des mini-ampoules ou de la fibre optique à l'intérieur. Là, on parle d'un vrai tissu, lavable, extensible, très léger, sauf qu'on lui a donné une caractéristique incroyable, ces fibres sont capables de s'illuminer. Alors, c'est une trouvaille des ingénieurs de l'université de Windsor au Canada. Évidemment, ça intéresse la haute couture, hein, car ça peut leur ouvrir un champ créatif incroyable. Mais figurez-vous que ça pourrait révolutionner les vêtements de sécurité, hein, vous savez, pour être visible sur un chantier ou à moto, par exemple.
Pourquoi ? Quel est le problème ?
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on utilise des bandes réfléchissantes. Hein, non seulement, c'est pas très souple, mais en plus, il faut absolument être éclairé pour être visible. Alors qu'avec un vêtement qui émet sa propre lumière, on sera toujours visible, quelle que soit la luminosité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub de Karl Lagerfeld pour la sécurité routière. Hein, c'est jaune, c'est moche. Ça ne sert à rien, mais ça peut vous sauver la vie. Hein. Il parlait du gilet jaune. Eh bien, on pourrait réconcilier mode et sécurité avec des petits hauts tout légers, là, hyper tendants sur son vélo, mais qui s'illuminent la nuit pour être bien visible.
Mais comment ça s'allume ? Il va falloir des piles.
Malheureusement, c'est le plus gros problème. Hein. En fait, les fibres ont été baignées dans une espèce de mélange d'or, de zinc et de silicone qui leur permet de produire de la lumière exactement comme des ampoules. Donc, elles ont besoin d'électricité. Mais vous savez, on réfléchit aussi à utiliser les mouvements du corps hein, comme énergie. Comme ça, on n'a plus besoin de se balader toujours avec un pack de piles dans la poche.
Merci beaucoup, Anissa Mbida. L'innovation tous les matins, juste après le journal de 7h.
Le monde bouge, avec Axel de Tarlet à suivre.
Et l'édito sport. Saint-Etienne qualifié pour la finale de la Coupe de France. Et si c'était le déclic pour les Verts, Virginie Fulpin dans un instant. Ça c'est juré, allez.
À 7h19 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité ce 6 mars, Mathieu Béliard.
L'épidémie est inexorable, le mot du jour, le mot d'Emmanuel Macron hier soir alors que les contaminations au coronavirus ont bondi. 138 nouveaux cas, 3 nouveaux décès, toute la métropole est touchée. L'Assemblée nationale n'est pas épargnée, 2 cas confirmés, un député et un salarié de la buvette. Calme relatif cette nuit dans la région d'Idleb en Syrie, quelques tirs sporadiques après l'accord de cessez-le-feu conclu entre la Turquie et la Russie, soutien de Damas. Saint-Étienne se donne un peu d'air grâce à la Coupe de France. À la peine en Ligue 1, les Verts se sont offerts hier soir une place en finale de coupe après une victoire contre Rennes 2-1, on en parle dans l'édito sport dans quelques secondes.
La météo, des agitations nombreuses aujourd'hui à cause du vent, principalement à l'ouest, des pluies des Pyrénées au Massif central. Ça va devenir de plus en plus sec à l'est. En Ile-de-France, également en Bourgogne, jusqu'à la Méditerranée. Température, 8 degrés cet après-midi à Colmar, 10 à Caen, 11 à Biarritz et Paris.
Europe 1.
Ils sont là tous les deux. Vous les attendez. Virginie Fulpin pour l'édito sport. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Et Axel de Tarlet, le monde bouge. Axel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Flybe, première victime du coronavirus. Alors je m'étais habitué à vos bonnes nouvelles autour du coronavirus.
là c'est fini.
La compagnie britannique Abacus s'est déclarée en faillite. Le secteur aérien est particulièrement touché évidemment par cette épidémie.
Oui, car maintenant ce ne sont plus uniquement les vols vers la Chine qui sont affectés, mais vers toutes les destinations, vers les États-Unis par exemple. Virgin Atlantic constate une chute de 40% du trafic. Plus personne ne réserve, ni les entreprises, ni les particuliers, et ceux qui devaient partir annulent ou reportent leur voyage. L'IATA, c'est l'association qui regroupe les compagnies aériennes dans le monde, table sur une perte pour le secteur allant jusqu'à 100 milliards d'euros, c'est trois fois plus que ses premières estimations.
Et donc déjà, une première victime, Flybe, qui s'est déclarée en cessation de paiement.
Ouais, alors Flybe allait déjà mal avant. Vous savez, c'est comme pour les hommes, hein. Ce virus est redoutable pour les entreprises qui étaient déjà un peu malades avant l'apparition du virus. On murmure déjà qu'Alitalia ou Norvégienne pourraient également ne pas se remettre de ce coronavirus. Le patron d'Air France, Benjamin Smith, estime d'ailleurs que ce virus pourrait encourager les fusions, les rapprochements, ce qui ne serait pas une mauvaise chose car l'aérien est un secteur où il y a trop d'acteurs, trop de compagnies qui vendent à perte. Donc paradoxalement, si ce virus pouvait permettre de faire un peu le ménage, ben à terme, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose pour Air France.
Oui, oui, on a sorti les canines là, il va y avoir des affaires
voilà,
à faire,
exactement.
C'est ce que je comprends. En attendant, c'est un nouveau coup dur pour le secteur tout entier, le secteur aérien. Lufthansa a annoncé avoir immobilisé 150 avions, c'est 20% de sa flotte.
Voilà, et c'est intéressant de voir comment ce coronavirus révèle ce monde qui bouge, pour reprendre une bonne chronique, ce monde qui change. Bah oui, parce que l'aérien, pendant des années, a surfé sur la mondialisation, a surfé sur les échanges aux quatre coins de la planète. Eh bien aujourd'hui, ça lui revient en boomerang avec des attaques de toutes parts. Regardez, l'an dernier, on a eu la honte de prendre l'avion avec les émissions de CO2. Et cette année, on a la peur d'attraper le virus.
Choc sanitaire, choc économique. Vous l'aurez compris, le pire peut-être, on parle souvent de 2008, le pire depuis le choc pétrolier, nous dira Nicolas Bétou à 7h55 tout à l'heure. Merci Axel de Tarlet.
Sur Europe 1 à 7h22, l'édito sport, Virginie Fulpin.
Au moment du but, 94e minute, Riyad Boudbouz. Hier soir, l'édito sport de Virginie Fulpin, nous revenons sur cette victoire. Qualification, Saint-Etienne qui rejoint le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France. Les Verts ont battu Rennes 2-1, in extremis, vous l'aurez compris. Cela faisait 38 ans qu'ils n'avaient pas atteint la finale. Pour vous, Virginie, c'est le genre de soirée qui peut provoquer un déclic chez les Stéphanois.
On dirait que la lumière s'est rallumée le temps d'une soirée à Saint-Etienne depuis le début de la saison. Les supporters se morfondent chaque semaine devant leur équipe sans âme et ils tremblent sans répit en voyant leur club flirter dangereusement avec la zone de relégation. Et là, hier soir, ils ont eu droit à leur bouffée d'oxygène. Ils ont senti le parfum sucré d'une finale qui rend les tourments du quotidien plus légers. Et c'est porté par l'extase de ce but de la victoire dans les dernières secondes, on l'a dit, hein, qu'ils ont joyeusement envahi le terrain. Et moi, j'avoue que ces images, elles me donnent des frissons. C'est ça aussi le foot, ces cœurs contrariés qui chavirent quand ça sourit enfin. La passion est là, au stade Geoffroy Guichard. Elle a toujours été là et elle ne demandait qu'une étincelle pour revenir à la surface. Alors oui, ça faisait 38 ans que les Verts n'avaient pas atteint la finale de la Coupe de France. À Saint-Etienne, le glorieux passé n'est jamais loin. Hein, et la simple évocation de ces 38 ans renvoie tout le monde vers la volupté de ce début des années 80 pavé de succès. Oui, les Verts sont tellement présents dans nos souvenirs heureux que les voir en finale ne peut que relancer nos élans nostalgiques. Quand vous êtes dans une période compliquée dans votre vie, parfois vous sentez une odeur agréable ou une image vous revient furtivement à l'esprit et l'ambiance morose du moment se part d'une lumière un peu plus douce. Pour moi, elle ressemble à ça, cette qualification de Saint-Etienne pour la finale.
elle offre à cette équipe le droit de rêver au milieu d'une saison de cauchemar.
Est-ce que la saison de cauchemar est comparable avec les difficultés d'un couple? Ben pour le supporter, je pense que oui. Cette saison, Virginie, elle peut justement tourner avec cette victoire d'hier.
Ben c'est toute la question. Est-ce que cette finale à venir est une parenthèse enchantée ou est-ce qu'elle peut entraîner le renouveau des Verts en championnat aussi? Moi, j'ai tendance à penser que ce que les Stéphanois ont vécu hier soir peut provoquer un déclic. Cette saison, il y a des matchs qui auraient pu basculer en leur faveur. Ça n'a jamais été le cas, ou presque, parce qu'on aurait dit que les joueurs avaient perdu l'envie et la foi. Et on parlait plus des querelles de vestiaire que des actions inexistantes sur le terrain. Hier, le but de la victoire de Riyad Boudbouz a montré que oui, ça pouvait aussi parfois basculer du bon côté. La communion avec les supporters, ensuite l'évocation du passé et la perspective d'affronter le Paris Saint-Germain en finale. Tout ça, ça peut unir un groupe et changer les mentalités pour enfin décoller de cette 16e place en Ligue 1 qui fait faire des cauchemars au peuple vert. Alors moi, je suis peut-être une douce rêveuse, hein, mais pour moi, la soirée d'hier va redonner du cœur à cette équipe. Et c'est justement ce qui lui manquait.
Bon, après, c'est une finale. Hein. Faut encore la gagner.
Oui, mais bon, ça peut déjà apporter autre chose jusqu'à la finale.
Je suis redevenu parisien quelques secondes. J'arrête évidemment de bosser.
25 avril. Hein,
évidemment, les plus forts, c'est les Verts. Merci Virginie Philpin, c'est l'édito sport tous les matins à 7h25 sur Europe 1 à partager sur le hashtag Europe 1.
La météo et le journal à 7h30.
Et nous allons revenir dans le journal sur la crise du coronavirus, bien sûr, et revenir également sur le premier meeting de campagne d'Edouard Philippe. À tout de suite.
Europe 1, il est 7h28, Mathieu Béliard.
Le programme de la demi-heure qui arrive à 7h55, l'opinion de Nicolas Bétou autour du coronavirus, le choc sanitaire bien sûr, le choc économique aussi, peut-être le pire depuis la crise pétrolière des années 70. On va parler de l'événementiel, puisque après le journal, je reçois le patron de l'accord Hôtel Arena. Justement, quel impact directement ces annulations, ces reports? C'est à 7h40 tout à l'heure. 7h50, Jean-Philippe Ballas, Périscope, c'est la culture.
Nous irons voir Jane à New York.
Voici les orgues qui remettent ça.
Jane Birkin et son Gainsbourg symphonique, concert exceptionnel ce soir à Manhattan donc. Il y aura même Iggy Pop parmi les invités.
A tout à l'heure pour Périscope avec Jean-Philippe Ballas. Et Iggy Pop, 7h29, Laurent Cabrol.
Et commençons par les bonnes nouvelles. Allez, le temps, ça va s'améliorer, enfin va s'améliorer très légèrement sur le nord, la Picardie, la Lorraine, l'Alsace, le Dijon et la Franche-Comté, où le temps sera de plus en plus sec tout au long de cette journée. Une météo pas trop mauvaise sur la région parisienne, en dépit des apparences. En Normandie aussi, sur le Morvan, sur le Bourbonnais, la région lyonnaise, où nous aurons dans ces contrées peut-être même du soleil sur Paris. Il y aura du soleil, oui. Bassin méditerranéen, il fera relativement beau. Voilà pour les bonnes nouvelles. Maintenant, les nouvelles un petit peu moins réjouissante. Midi-Pyrénées, Limousin et Cantal, ce sont des pluies fréquentes avec beaucoup de vent. Hein. J'ai oublié de le dire, mais le vent sera généralisé sur la France. Des rafales de 60 à 80 km/h. Que dire encore? En Bretagne, Poitou-Charentes et Aquitaine, du vent, de la pluie, mais des giboulées sous forme de giboulées, la pluie et le vent. Et c'est présent ce matin, ça ira un petit peu mieux après. Les températures entre 9 et 13 degrés. Quant à la journée de demain, elle sera quand même bien meilleure puisque la perturbation sera passée. Alors nous aurons les traînards, les groupes étaux qui eux sont derrière et qui vont arriver un peu en retard.
C'est cycliste, Laurent.
Donc ça c'est le groupe étaux de demain, mais quand même le temps sera sec. Et puis dimanche, allez, le peloton de l'appui reviendra et puis nous aurons de nouveau un temps souvent pluvieux.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Hélène Zélani est avec nous en studio. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Nous, on a des pointages deux fois par semaine et on se rend bien compte que globalement, il y a un ralentissement énorme des ventes de billets.
Les salles de spectacle durement touchées par la crise du coronavirus. Nous irons à la halle Tony Garnier de Lyon.
Un député de 68 ans en réanimation, un salarié de la buvette de l'Assemblée, est également touché par le virus.
Pas d'annulation, mais des mesures de prévention pour les élections municipales des 15 et 22 mars. Édouard Philippe était hier soir en meeting au Havre.
Et puis à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous évoquerons une question parfois taboue, celle de la précarité menstruelle.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une épidémie désormais inexorable, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, avec un nombre record de nouveaux cas, 138. On a d'ailleurs appris que l'Assemblée nationale était désormais touchée.
Le député LR du Haut-Rhin, Jean-Luc Retzer, est hospitalisé en réanimation. Un salarié de la buvette est également infecté. On attend les résultats pour un cas suspect, un homme qui travaille au restaurant des députés. Dans ce contexte, pas difficile de comprendre que les Français ne se bousculent pas dans les salles de spectacle. On ne compte plus les concerts annulés. Exemple à la halle Tony Garnier de Lyon avec Jean-Luc Bougeon.
C'est à peu près la seule bonne nouvelle pour la Altony Garni en ce moment. Le concert de Chantal Goya qui aura lieu demain et pour lequel 3500 billets ont été vendus aura bien lieu. Mais pour les gros spectacles entre 5 et 12 000 personnes, c'est tout autre chose. Les 8 prochains sont reportés à cet été. Gims, M. Pokora, Jean-Louis Aubert, Patrick Bruel, M. ou Claudio Capeo. Et pour d'autres concerts, eh bien on s'adapte. Par exemple, lundi dernier, James Blunt a pu se produire parce qu'on a volontairement limité la jauge, explique Thierry Théodori, le directeur de la Halle.
On était à 4300 places vendues, donc on a arrêté immédiatement le matin même et on a eu à peu près 600 no-shows. Les no-shows sont les gens qui ne viennent pas. Alors on a toujours des no-shows sur tous les spectacles mais dans des mesures beaucoup moins importantes quoi.
Car voilà le risque que les spectateurs n'osent plus venir au concert et ça a déjà commencé, s'inquiète Thierry Théodori.
Nous on a des pointages deux fois par semaine et on se rend bien compte que globalement il y a un ralentissement énorme des ventes de billets.
Alors pour l'instant les conséquences économiques ne sont pas quantifiables mais il y en aura c'est sûr et la Altony Garni, établissement public rattaché à la ville de Lyon, qui avait dégagé 400 000 euros d'excédent l'an dernier, aura beaucoup plus de mal à être bénéficiaire cette année à cause du coronavirus. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et c'est vrai qu'il est encore un peu tôt pour avoir des chiffres, en tout cas des chiffres définitifs. Je poserai tout de même la question de ce manque à gagner à mon invité dans un instant, Nicolas Dupeux, le directeur général de l'Accor Hôtel Arena.
Et puis le président du Parlement européen annule la session plénière prévue à Strasbourg. La semaine prochaine, elle se tiendra à Bruxelles.
Le gouvernement martèle qu'il n'est pas question d'annuler les municipales. En revanche, des précautions spécifiques seront prises. Flacons de gel hydroalcoolique à l'entrée des bureaux de vote, davantage de moyens pour les procurations.
Un virus ou pas, le Premier ministre est en tout cas en campagne. Édouard Philippe en meeting dans sa ville du Havre. Hier soir, au même moment des heures, opposait les forces de l'ordre aux quelques 300 manifestants venus protester contre la réforme des retraites et l'usage du 49-3.
Donné favori dans un récent sondage, Édouard Philippe n'est pourtant pas assuré d'une victoire. Le reportage, Claudia Bertram.
Merci d'avoir bravé la pluie froide et les manifestants parfois un peu chauds.
À quelques mètres de la salle du meeting d'Édouard Philippe, des opposants manifestent. À la réforme des retraites s'est ajouté le 49-3, un argument de campagne pour le communiste Jean-Paul Lecoq, son principal adversaire.
Les gens nous disent, vous avez une responsabilité au Havre, c'est vous qui devez faire la sanction au Premier ministre.
Édouard Philippe, lui, fait tout pour enlever sa casquette de Premier ministre. Il parle du Havre, rien que du Havre, et appelle ses troupes à la mobilisation.
Le 15 et le 22 mars prochain, vous choisissez votre maire. C'est vous qui prenez cette responsabilité. C'est pas ceux qui sont pas d'accord et qui ont parfaitement le droit de le dire dans la rue en manifestant. C'est ceux qui vont voter.
Message reçu 5 sur 5 par les militants, mais ils ne cachent pas leur inquiétude.
Annoncer le 49-3 samedi en catimini, ça va pas l'avantager. Hein.
Il est certain qu'on est un peu inquiet, c'est un vrai challenge cette élection.
Ce sera sans doute plus serré que la dernière fois, mais je pense qu'il passera relativement facilement quand même.
Édouard Philippe est certes en avance dans les sondages, mais un de ses proches est formel. Il sait qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance.
Claudia Bertram au Havre pour Europe 1.
Et vous retrouvez évidemment la liste de tous les candidats sur notre site europe1.fr.
Pour 56% des Français, le Rassemblement National peut accéder au pouvoir. Étude Kantar-Sofresse qui montre aussi que la majorité des personnes interrogées seraient mécontentes si leur commune était dirigée par un maire du Rassemblement National.
À 8h15 justement, Sonia Mabrouk reçoit l'eurodéputé Rassemblement National Nicolas Bay.
Europe 1, il est 7h35.
À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons choisi de nous pencher sur la question de la précarité menstruelle. Ces millions de Françaises qui n'ont pas les moyens de se payer des protections périodiques.
Le gouvernement va d'ailleurs lancer une phase de test de distribution au printemps. Pauline Jacquot s'est rendue à Bagnolet, en banlieue parisienne, dans un centre d'accueil pour jeunes femmes en difficulté.
C'est quasiment quotidiennement que les jeunes viennent en disant « mais j'ai rien ».
Ni serviettes hygiéniques, ni tampons. Les femmes qui viennent dans ce centre d'accueil dirigé par Amandine Maraval de l'association Une Femme, Un Toit sont très souvent sans ressources.
Quand elles viennent et qu'on leur propose de leur donner 5 euros, elles vont préférer s'acheter des serviettes plutôt que de s'acheter à manger. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui les femmes doivent choisir entre s'alimenter et avoir une serviette.
Émilie, 22 ans, vient ici tous les jours.
En fait, je suis venue parce que j'ai été victime de violences conjugales.
Plusieurs entreprises de Seine-Saint-Denis distribuent gratuitement des protections périodiques dans le salon du centre.
Ça va beaucoup aider les femmes parce que c'est vraiment des trucs qu'on a besoin régulièrement, chaque mois. Peut-être il y a des gens qui ne voient pas ça, mais nous, ça nous aide psychologiquement aussi.
À côté d'elle, Lucie touche 700 euros par mois.
Si on prend une marque qui était assez élevée, c'est comme 3-4 euros. Financièrement, c'est un budget, même si on trouve des systèmes D, mais des fois c'est compliqué.
Des serviettes et des tampons gratuits, c'est aussi très important, rappelle la responsable du centre, pour que ces femmes soient en confiance et reviennent toquer à notre porte.
En Syrie, le cessez-le-feu annoncé par la Russie et la Turquie vient d'entrer en vigueur. Un calme relatif, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les violences dans la région d'Idlib ont provoqué une catastrophe humanitaire. Le football, les Verts ont la banane. Ils vont en finale de la Coupe de France. Saint-Etienne, à la peine en championnat, l'a emporté sur le fil hier soir contre Rennes 2-1. Finale contre le PSG le 25 avril.
Vous avez sans doute... Est-ce que vous l'avez là ? Évidemment, alors, Bella Ciao, beaucoup connaissent cette chanson, mais pour certains, cette musique qui n'est pas seulement l'hymne des résistants italiens, mais le générique aussi de cette série espagnole à très grand succès, La Casa de Papel.
Et pour faire patienter les fans, un mois avant la sortie de la saison 4, Netflix vient de dévoiler une bande-annonce détonnante.
Je viens de perdre toutes les images des caméras à l'intérieur de la banque. Vous êtes seul. Vous êtes plus du tout invincible.
La saison 4 arrive, ça y est, la Casa de Papel, certains vont se réjouir.
Elle arrive même sur Netflix le 3 avril avec ce mot d'ordre, que le chaos commence.
Hélène Zélani pour le journal de 7h30. À 8h, nous serons avec Sonia Mabrouk et nous allons parler des mesures prises pour les municipales contre le coronavirus, bien sûr. 7h37.
Europe 1. La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Bélière et votre invité à suivre.
Impact économique en débat, en question. Le directeur général de l'Accor Hôtel Arena est mon invité dans le studio d'Europe 1 dans quelques toutes petites secondes.
Europe 1, il est 7h40. Votre invité ce matin, Mathieu Bélière, c'est le directeur général de l'Accor Hôtel Arena, Nicolas Dupeux.
Bonjour Nicolas Dupeux.
Bonjour.
Nous sommes le 6 mars, à 13 jours d'un concert qui était prévu d'Andrea Bocelli le 19 mars. Un concert qui n'est pas annulé mais reporté, Nicolas Dupeux.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des concerts qu'on est en train de reporter sur cette saison ou la prochaine. On a 23 événements qui sont impactés par la décision et l'arrêté ministériel qui a été publié hier matin jusqu'à fin mai. Et on travaille sur le report de ces concerts et de ces événements sportifs.
Le mot-clé, il y en a deux. Il y a report et travail. Parce que la réalité, c'est qu'on annonce des annulations en cascade depuis quelques jours. Les événements de plus de 5000 personnes, ça, nos auditeurs l'ont bien compris. 31 mai, on va parler de cette date un tout petit peu plus tard. L'autre mot-clé, c'est, je disais report parce qu'il faut travailler pour trouver d'autres dates. Vous ne voulez pas annuler ces dates. Vous voulez qu'elles se tiennent.
Oui, je pense que c'est important de réussir à pouvoir maintenir ces événements, à pouvoir les reporter dans des périodes dont on espère qu'elles seront en tout cas meilleures.
Mais à l'Accor Hôtel Arena, vous recevez des artistes d'envergure internationale. Les agendas ne sont pas extensibles à souhait.
Non, mais on travaille sur les tournées. En fait, on a des relations de très grande confiance et très partenariales avec les plus grands producteurs, les plus grands tourneurs et les organisateurs. Et donc, on travaille actuellement... main dans la main, à reporter sur le mois de juin, qui était un mois où on avait un peu de place, sur juillet, et puis sinon on passe à la saison prochaine à partir de la rentrée.
C'est ce qui s'est passé par exemple pour le Marathon de Paris aussi, hein, qui se courra en octobre finalement. D'un mot, d'abord soyons pratiques, nos auditeurs qui auraient éventuellement des places pour les concerts, je regardais la liste, hein, Nino, M. Pokora, les Harlem Globetrotters, Trio, Queen aussi, la version de Queen avec Adam Lambert. Est-ce que nos auditeurs peuvent se présenter avec le même billet déjà ?
Alors, on est en train de travailler sur tout ça, ça dépend des événements, mais effectivement, il faut conserver ces billets pour l'instant. Ils seront valables pour les concerts qui seront reportés, quand les dates seront annoncées. Et donc, il faut bien, pour l'instant, conserver ces tickets. Et on annonce, événement par événement, la politique, justement, sur la partie billetterie.
Et ensuite, évidemment, report ou annulation, on peut se faire rembourser. Si on a changé la date, il n'y aura pas de souci. On pourra se faire rembourser ces billets. Alors, il y a plusieurs sujets d'inquiétude. D'abord, on va parler d'argent. Ce coronavirus, depuis le début de cette crise, qui est, je le rappelle, à la fois un choc sanitaire, mais aussi économique. Pour beaucoup, on le raconte, hein, ici le matin. Ça vous coûte combien, cette affaire ?
C'est difficile à évaluer pour le moment, parce que si on réussit à reporter l'ensemble des événements, forcément notre impact sera moindre. Maintenant, on va en reporter sur notre année fiscale prochaine, donc on va avoir un impact direct sur notre bilan de cette année. Si on avait dû annuler l'ensemble des 23 événements, on parle de plusieurs millions.
J'ai vu passer le chiffre de 250 millions pour le spectacle vivant.
Oui, c'est le chiffre du Prodis, qui est le syndicat de la profession, qui est effectivement l'impact général pour l'ensemble de la profession pas que les salles, hein. Il y a aussi tous les producteurs, il y a aussi tous les artistes, les tourneurs.
Évidemment. Mais simplement parce que vous dites, si on arrive à la reporter, on retombera sur nos pieds. Mais je vais prendre un exemple. Andrea Bocelli, dont on parlait, 19 mars, ce sera le 7 juin. Le 7 juin, du coup, la salle est prise. Vous n'aurez pas un autre concert, un autre événement.
Oui.
Il y aura forcément une perte.
Oui, il y a un effet de cannibalisation. Maintenant, à aujourd'hui, on n'annonçait pas de concerts sur le mois de juin. C'est un peu tard d'annoncer au mois de mars des concerts sur juin. Donc on vient remplir une case sur le mois de juin qui n'aurait pas été pleine. Donc là, on limite un petit peu.
Vous êtes assuré pour ce risque épidémique ?
Non.
Non.
Pas d'assurance sur cette perte d'exploitation.
Donc ce qui est perdu est perdu.
Totalement perdu.
D'où je comprends bien aussi votre intérêt ce matin à souligner qu'il faut remplacer le mot annulation par report. Il y a quelques dates qui n'ont pas encore trouvé de date, mais il faut remplacer le mot annulation par report parce que c'est pour votre poche.
Alors, c'est pour celle de l'entreprise,
oui,
tout à fait.
Ah oui, pas la vôtre à vous, Nicolas Dupont, j'imagine.
Mais effectivement, c'est 100%, on est dans un cas de force majeure, donc on rembourse l'intégralité des sommes. C'est pour nous, c'est aussi pour tout notre écosystème, puisque tous nos prestataires, toutes les personnes qui travaillent pour nous sont directement impactées également.
Je pense qu'on va parler des traiteurs l'événementiel. On va parler des traiteurs dans le journal de 8 heures. Simplement pour évacuer cette question, quand vous dites plusieurs millions, on parle de plusieurs millions ou de plusieurs dizaines de millions ?
Non, plusieurs. Sur ces trois,
au-delà de la dizaine,
Sur ces trois mois, on parle potentiellement. Mais encore,
c'est loin, le 31 mai quand même.
Oui, c'est assez loin le 31 mai.
On parle potentiellement, vous disiez ?
On parle potentiellement de moins parce que sur les 23, on en a déjà annoncé 5 reportés. Sur les 18 autres, il y en a qui sont conservés sur des jauges à moins de 5000 personnes. Je pense notamment au Festival des Arts Martiaux dans 15 jours. Je pense à d'autres événements sportifs sur lesquels on travaille.
Oui, j'aurais dû commencer par ça. Bercy, l'Accor Hôtel Arena, c'est 17 000 places.
C'est 20 000, un peu plus de 20 000 places.
Maintenant. 20 000.
Un peu plus de 20 000. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir des configurations à moins de 5000.
Ça fait creux quand même chez vous.
On s'organise. On s'organise, on réduit un peu, on met des rideaux de jauge, on avance la scène. Mais du coup, on va quand même conserver certains événements, on va en reporter d'autres. Et au final, pour nous, en tout cas, on essaye de réduire cet impact le plus possible.
D'un mot, un message que vous vouliez passer aussi aux spectateurs qui n'ont pas acheté de billets encore. C'est votre inquiétude qu'aujourd'hui, à partir du mois de mars, avril, on se dise ça sert à rien, j'achète pas de billets puisque ça va être annulé, reporté.
Non, je pense qu'il faut... nous, on essaye d'être optimiste et positif dans une situation qu'on sait compliquée. Il faut, je pense, continuer à se dire que on va arriver, le gouvernement et puis le pays va arriver à sortir de cette crise, on espère, le plus vite possible, et reprendre après une activité où on puisse venir voir un spectacle qui est toujours quand même un moment d'émotion aussi important. Donc oui, continuer à prendre sa billetterie.
Bon courage.
Merci beaucoup.
Je sais pas, c'est ce qu'il faut vous souhaiter. A priori, bon courage. Nous, on l'entend dans nos reportages aussi, nos auditeurs éventuellement qui sont à plusieurs niveaux d'entreprises, des petites boîtes, l'événementiel, le tourisme, etc. C'est compliqué. Et merci Nicolas Dupeux d'être venu faire ses premiers bilans, si j'ose dire. On se reparlera certainement ses premiers bilans ce matin sur Europe 1, le directeur général de l'Accor Hôtel Arena en direct. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
7h46.
Jane Birkin chante ce soir à New York avec son Gainsbourg Symphonique et on en parle avec Jean-Philippe Ballas.
Et alors qu'on a beaucoup comparé justement ces situations de crise à 2008, pour Nicolas Béthou, on est peut-être devant le pire choc depuis le choc pétrolier des années 70. À tout de suite.
7h48, c'est la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Ils sont là tous les deux. J'allais dire ce vendredi matin, tous les matins, vous les trouvez. Vous les attendez. Nicolas Béthou, l'opinion de Nicolas Béthou dans un instant. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et Jean-Philippe Ballas pour la culture. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Périscope, je dis la culture comme ça. Non, c'est Périscope, c'est toutes les cultures. On regarde à 360 degrés. Et ce matin, une Anglaise à New York. Jane Birkin en concert à Manhattan, Gainsbourg Symphonique. C'est ce soir, Jean-Philippe.
Oui, rendez-vous sur Broadway au Beacon Theatre. C'est l'une des plus jolies salles de New York, vers la 75e. Et on avait évoqué ensemble avec Jane Birkin, il y a quelque temps, on avait évoqué sa joie, son trac, avant ce voyage symphonique et transatlantique.
Aucun Boeing sur mon transit. Aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain la porte exacte. Je cherche en vain le mot exit.
Oui, 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 non, ça c'est des petits bonheurs. Ça prolonge un peu la vie de la symphonique pour New York. Chanter des merveilles de Sage, je suis contente.
J'ai vu New York, New York et le soir. J'ai vu New York, New York et le soir. J'ai jamais rien vu d'autre.
New York fait toujours un peu peur, tout comme Londres, Paris. On est un peu perdu. J'aime pas trop parler des choses à venir parce que j'ai toujours peur que ça serait moins bien que j'imagine. Mais avec ces intervenants de grand charme, non, ça va être pas mal, je pense. Ça, c'est des petits bonheurs.
Et chaque fois, les feuilles mortes.
Et là, vous entendez, c'est un duo avec Charlotte, Charlotte Gainsbourg.
Te rappelle à mon souvenir.
Charlotte Gainsbourg, invitée pour ce concert. Elle n'est pas la seule. Iggy Pop sera là, lui aussi, oui, Iggy Pop. Et on a eu un avant-goût l'autre soir à la télévision américaine, dans le show de Jimmy Fallon. Écoutez bien, moi j'aime bien comme il dit, Serge Gainsbourg.
You can catch our next guest performing the songs of Serge Gainsbourg here in New York. Please welcome Jane Birkin, Iggy Pop.
Elisa, 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 sortez-moi.
Toujours chic, élégant, la voix, Iggy Pop. Chic, effectivement, chic comme ce Gainsbourg symphonique. Il y a un album, hein, d'ailleurs, vous pouvez l'écouter. Et c'est l'un des plus beaux projets de Jane Birkin.
Je sais qu'il aurait aimé ça. Ça aussi, c'est une grande, c'est un réconfort de savoir qu'il aurait été le premier pour chercher un Kleenex. Il aurait été le premier à trouver ça superbe. Je crois qu'après ça, je ne pourrais pas mieux faire, disons. Je crois qu'après, si ça me chante d'aller faire des petits concerts pour le reste de ma vie avec une piano bar, c'est très bien. Mais là, je ne peux pas donner plus.
Nous aimions le temps d'une chanson.
Gainsbourg, symphonique. Jane Birkin en concert ce soir à New York. Merci pour ce voyage. C'est un voyage ce matin. Jean-Philippe Ballas, c'est Périscope tous les matins.
7h52, l'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
Le nombre de malades et de morts du coronavirus continue de s'alourdir, Nicolas Bétou. On ne sait toujours pas comment enrayer l'épidémie.
On ne sait toujours pas comment l'arrêter, ni sur le plan médical, ni sur le plan des conséquences économiques. Les différentes institutions financières internationales, les banques centrales, le FMI, et puis les gouvernements, le G7, tous ont pris des mesures spectaculaires depuis ce week-end.
Mais ça n'a pas marché.
Et non, toutes ces tentatives ont été rapides. Pas toujours parfaitement coordonnée, mais plutôt brillante, bien tentée, quoi. Et pourtant, ça n'a pas donné les résultats escomptés. En fait, les économistes commencent à réaliser que le choc subi par la planète est probablement le plus grave depuis un demi-siècle, depuis le premier choc pétrolier dans les années 70. À l'époque, les pays du Moyen-Orient avaient brutalement décidé de multiplier par deux, puis par quatre, les prix du pétrole, provoquant un terrible choc de croissance et une crise totalement inédite.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle avait, pour se rappeler, qu'est-ce qu'elle avait de si exceptionnel ?
Eh bien, disons que c'était une crise absolue. Tout le monde connaît évidemment la notion de l'offre et de la demande qui est à la base de la fixation des prix et d'une bonne part du fonctionnement de l'économie. Si l'une de ces deux composantes se dérègle, ça crée un déséquilibre qui peut engendrer une crise. Lorsque la consommation diminue, c'est la demande qui diminue, alors l'offre devient excessive, pléthorique, les prix s'effondrent. Crise. À l'inverse, lorsque c'est l'offre qui diminue et que les produits viennent à manquer, la demande ne peut plus être satisfaite, les prix s'emballent, crise.
Bon, ça c'est le schéma classique.
Exactement. Or cette fois, il y a à la fois une crise de l'offre et une crise de la demande. Crise de l'offre, des produits sont en rupture de stock, le commerce international et les échanges ralentissent, des usines s'arrêtent, crise. En même temps, la demande s'effondre, le tourisme est à l'arrêt, les voyages s'annulent, les entreprises se mettent en mode économie, les gens sortent moins de chez eux, réduisent leurs achats, crise, crise absolue.
Et est-ce qu'on sait comment on en sort ?
Eh bien, pour l'instant, on tâtonne. On peut déverser de l'argent sur l'économie, c'est ce qu'ont fait les banques centrales cette semaine. Ça peut aider les entreprises qui sont en panne de chiffre d'affaires à passer le creux, mais ça ne fera pas, évidemment, repartir les usines ni sortir les gens de chez eux lorsqu'ils sont confinés. On peut aussi lâcher tous les leviers budgétaires, mettre de l'argent public dans l'économie, mais ça ne fera pas consommer davantage. Pour l'instant, en tout cas. Et c'est toute la difficulté de ce choc sanitaire et économique. On ne sait ni comment éradiquer le virus, ni comment arrêter la vrille économique. On sait un peu calmer la fièvre, dans un cas comme dans l'autre, mais tant que le pic de l'économie et celui de la crise économique ne sont pas atteints, ben les traitements risquent fort d'être inefficaces.
Nicolas Bétou, on comprend qu'on, pour l'instant, on navigue à vue. Pour l'instant, on attend de voir. Et la comparaison glaçante, parce qu'on parle toujours de 2008, la comparaison avec le choc pétrolier des années 70, affaire à suivre. Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou, tous les matins. Votre édito juste avant le journal de 8h.
La météo avec Laurent Cabrol, à 8h, Sonia Mabrouk.
Qui reçoit ce matin à 8h15 l'eurodéputé Rassemblement National, Nicolas Bay. À tout de suite. Il est 7h58, vous êtes sur Europe 1 bien sûr et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, une journée encore bien agitée, hein. Chaque jour gagne une minute mais chaque aurore pleure un rayon. Ça c'est ce que aurait pu dire Victor Hugo qui en le pastichant des phrases de ce genre. Le soleil en aura sous le nord Picardie, la Champagne Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, le Dijonais et la Franche-Comté. C'est pluie ce matin mais ensuite beaucoup plus sec dans le courant de la journée. Peut-être un rayon mais pas sûr sur Paris. Enfin, quand même pas, il y en aura sur Paris. Sur le Bourbonnais, la région lyonnaise, et puis sur le bassin méditerranéen, là aussi nous aurons des rayons assurés. Un gros temps sur le Midi-Pyrénées, le Limousin et le Cantal, ce sera pas vraiment terrible. Et en Bretagne, Poitou-Charentes et Aquitaine, de la pluie et du vent. Voilà pour une journée qui s'annonce dans l'ensemble bien, bien tristounette, avec encore beaucoup d'agitation. Les températures quand même à l'abri du vent, de 9 à Lille, de 10 à Caen et Toulouse, 11 à Paris, à Bordeaux, Biarritz, 12 à Lyon, 13 à Marseille et 16 degrés tout de même à Bastia. Demain, ce sera pas mal du tout. Par rapport à aujourd'hui, hein, n'exagérons rien. Ce sera pas mal. Allez, c'est-à-dire qu'il ne pleuvra pas ou presque pas. Et nous aurons quand même des éclaircies entre deux gros nuages. Dimanche, une perturbation nouvelle va traverser la France. Et si je me risquais, je dirais que, allez, à la fin de la semaine prochaine, on changerait de type de temps.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1. Bon réveil. Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Presque 8h et de 8h à 8h30, on est ensemble pour une demi-heure d'infos.
Europe 1, 8h.
Nous sommes en train de travailler pour que nous puissions avoir des personnels supplémentaires pour que celles et ceux qui souhaitent voter par procuration puissent voter par procuration.
Faciliter le vote par procuration pour limiter la démobilisation des électeurs inquiets du coronavirus. Les détails des mesures dès le début de ce journal.
Le virus qui touche l'hémicycle, un député alsacien et un salarié de la buvette de l'Assemblée nationale.
Report et annulation en cascade d'événements et de spectacles. Un terrible manque à gagner, notamment pour les traiteurs en charge des repas.
Du 1er janvier au 1er mars, je peux déjà vous dire qu'on a perdu 40% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière et qu'on n'a aucune visibilité.
Dans ce journal, un parfum d'ancien monde aux États-Unis, il n'y a plus de femmes dans la course à l'investiture démocrate.
Une investiture qui se résume à un duel, Bernie Sanders-Joe Biden.
Un cessez-le-feu en vigueur depuis minuit en Syrie, Russes et Turcs se sont mis d'accord pour une trêve à Idlib. Le regard international de Vincent Hervouet dans un instant.
Et puis dans ce journal, des archives exceptionnelles compilées dans un podcast inédit à l'occasion de la journée du droit des femmes. Ce dimanche, Europe 1 revient sur 65 ans de lutte et de conquête.
Et des moments d'histoire quand Jean d'Ormesson intronise Marguerite Yourcenar sous la coupole de l'Académie française.
C'est une grande joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette vieille et illustre maison où vous êtes non pas certes le premier venu, mais enfin la première venue.
Votre invité politique Sonia après ce journal.
Nicolas Bay, député européen Rassemblement National. L'Europe ne cédera pas au chantage turc. Les frontières resteront fermées, prévient la France. Que pense notre invité de cette fermeté affichée? Réponse en quelques minutes.
8h45, Nicolas Canteloup. Bon réveil à toutes et à tous. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Un député hospitalisé en réanimation, touché par le coronavirus, Jean-Luc Reitzer, 68 ans, député républicain du Haut-Rhin. Il est soigné à Mulhouse, l'un des principaux foyers français.
Tous les députés ont été alertés hier, d'autant qu'un salarié de la buvette de l'Assemblée nationale est également contaminé. On attend aussi les résultats du dépistage pour un employé du restaurant du Palais Bourbon.
L'Assemblée nationale qui suspend ses travaux pendant 2 semaines en raison de l'approche du scrutin municipal. Un scrutin maintenu pour l'heure, vous le savez, mais avec des dispositions particulières dans les bureaux de vote. Il s'agit bien sûr de rassurer les électeurs, mais aussi, vous allez l'entendre, de faire en sorte que le coronavirus ne pèse pas sur la participation. Adrien Beck.
Des élections, oui, mais avec des précautions. Flacons de gel hydroalcoolique à l'entrée des bureaux de vote, des électeurs invités à se tenir à 1 mètre les uns des autres, des affichettes d'information. Voilà les propositions de Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur veut aussi faciliter le vote par procuration.
Nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Justice pour que nous puissions avoir des personnels supplémentaires qui ne soient pas forcément des agents de police judiciaire qui puissent renforcer nos effectifs pour que celles et ceux qui souhaitent voter par procuration, par appréhension du risque lié au Covid-19, puissent pouvoir voter par procuration.
Une réponse aux inquiétudes de certains états-majors de campagne qui craignent déjà une démobilisation, notamment des personnes âgées. Avec ces mesures faites pour rassurer, le ministère de l'Intérieur espère donc garantir un bon niveau de mobilisation les 15 et 22 mars.
Plus de doute, le stade 3 du plan de lutte sera bientôt activé.
Oui, nous y entrerons d'ici deux semaines maximum, précise le professeur Jean-François Delfrécy, responsable de la coordination des recherches sur le virus. Dans les transports parisiens, deux cas ont été découverts, deux salariés de la RATP qui ont pu être en contact avec le public.
Alors, il s'agit d'une femme travaillant sur la ligne 6 du métro, on en a parlé, et d'un conducteur d'une ligne de bus du sud de la capitale. Les deux agents vont bien selon la RATP.
Et l'une des conséquences de la propagation du coronavirus, c'est l'annulation, le report en cascade d'événements et de spectacles. Oui. Vous en avez parlé,
Mathieu. Des millions d'euros de coûts, nous disait le directeur général de l'Accor Hôtel Arena à 7h40. Des annulations qui vont se poursuivre, hein, puisque l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu fermé restera en vigueur jusqu'au 31 mai.
Des spectacles donc annulés, reportés, même chose pour les congrès. C'est tout le secteur de l'événementiel qui est touché, à l'image de ce traiteur rencontré par Maud Descamps pour Europe 1.
Alors regardez, je vous propose de checker quelques mails. Là, j'ai sous les yeux un congrès qui devait réunir des milliers de participants. Pour moi, c'était à peu près 3000 repas sur 10 jours. Donc c'est une perte d'exploitation à un peu plus de 15 000 euros.
Des emails comme celui-ci, Jimmy Herbeau en reçoit plusieurs par jour depuis la semaine dernière. L'épidémie de coronavirus est une catastrophe pour sa jeune entreprise de service de traiteur dans l'événementiel.
Du 1er janvier au 1er mars, je peux déjà vous dire qu'on a perdu 40% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. S'il y a un chiffre à retenir pour mon métier, c'est que les 4 prochains mois sont décisifs pour moi, puisque je fais 60% de mon chiffre d'affaires sur les 4 mois à venir, et qu'on n'a aucune visibilité. Alors, on n'a pas de visibilité sur les 24 heures, mais malheureusement, on n'en a pas non plus sur les 6 prochains mois.
C'est donc un coup dur de plus, après une fin d'année marquée par les grèves et une année 2018 par les gilets jaunes. Résultat, ce chef d'entreprise qui vient de recruter 2 collaborateurs a dû prolonger leur période d'essai. Il n'est pas sûr, dit-il, de pouvoir les embaucher si la situation ne s'améliore pas dans les prochains mois.
Et de leur côté, les voyagistes demandent à être reçus de manière urgente par le gouvernement, soulignant une baisse d'activité de près de 25% pour les tours opérateurs le mois dernier.
Aux États-Unis, qui affrontera Donald Trump aux prochaines élections de novembre? On y voit un peu plus clair côté démocrate après le vote dans 14 États pour les primaires.
Oui, après le milliardaire Mike Bloomberg, c'est la sénatrice Elizabeth Warren qui a donc abandonné la course hier. Il ne reste donc plus que 2 candidats, Joe Biden, Bernie Sanders. C'est donc l'un des 2 qui tentera de prendre le siège de Donald Trump à la Maison-Blanche, Xavier Yvon.
Oui, on en est réduit à un duel d'hommes blancs de près de 80 ans. Et pourtant, sur la ligne de départ, jamais il n'y avait eu une telle diversité de profils dans la vingtaine de candidats. Beaucoup de femmes, des Afro-Américains, un Asiatique, un jeune maire ouvertement homosexuel, Pete Buttigieg, Kamala Harris, Elizabeth Warren et les autres, c'était la promesse d'un renouvellement. Seulement voilà, quand les démocrates votent, ils ont un seul nom en tête, Donald Trump. C'est l'épouvantail.
Someone has to beat Trump.
Beat Trump.
Beat Donald Trump.
Il faut battre Trump, je l'ai entendu depuis des mois, de l'Iowa à la Virginie. Hors de question de prendre le moindre risque de perdre et donc de tenter l'aventure. C'est la peur qui a motivé les sympathisants démocrates, la trouille de voir Trump réélu. C'est pour ça qu'ils ont choisi des valeurs refuges, 2 hommes politiques qu'ils connaissent depuis des décennies. Bernie Sanders, parce qu'il suscite le même mouvement populaire à gauche que Donald Trump à droite. Joe Biden, parce qu'il est le plus rassembleur, avec son capital sympathie, ses idées centristes et l'héritage de Barack Obama.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le prochain vote démocrate, ce sera le 10 mars.
Sur le papier, depuis minuit hier soir, un cessez-le-feu est entré en vigueur à Idlib, en Syrie. Accord conclu au Kremlin entre Vladimir Poutine et le Turc Erdogan. Les soldats des deux pays doivent faire respecter un corridor de sécurité. Ils s'engagent aussi à faire parvenir l'aide humanitaire aux déplacés, on le rappelle, plus d'un million de Syriens.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
C'est une accalmie après des mois de batailles meurtrières.
Alors dans 10 jours, la Syrie entrera dans sa 10e année de guerre. Bachar el-Assad a survécu, ses alliés ont gagné. Tous les autres ont perdu, les Turcs, les Arabes, les Européens, les Américains et les civils payent l'addition. À Idlib, les Turcs jouent les prolongations. Il y a 2 bonnes raisons de s'intéresser à cette fin qui n'en finit pas. D'abord, le sort à régler de 15 à 20 000 djihadistes, dont la moitié d'étrangers. Idlib, c'est le Sigmaringen des barbus, dont 150 Français. Avec 1 million de déplacés tout autour, autant d'otages qui font un molleton sanglant. Le cessez-le-feu signé hier à Moscou est obscur, fragile, provisoire, Mais ce répit est bon à prendre pour les civils. L'armée syrienne fait halte dans la reconquête de sa dernière province. L'accord sécurise deux axes essentiels pour le régime. La route qui relie Alep, la capitale économique, et celle qui relie Latakié, la capitale alaouite.
Vincent Erdogan a obtenu un cessez-le-feu, mais rien d'autre.
Il sauve la face en jurant que ses soldats riposteront s'ils sont attaqués. Cela ne fait pas oublier les 40 hommes qu'il a perdus. Sa colère se retourne contre l'Europe qu'il fait chanter. Il exige son soutien en Syrie et il l'obtient. Avant-hier, le commissaire Borrell est allé déposer 170 millions au pied du sultan. Hier, Ursula von der Leyen préparait des visas et 500 millions supplémentaires. Poutine et Erdogan se mesurent en Syrie, mais nos deux voisins belliqueux sont d'accord sur l'essentiel, reconstituer leurs empires et humilier cette Europe qu'ils méprisent.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h.
Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant, des archives exceptionnelles. Europe 1 vous propose, à l'occasion de la journée des droits des femmes, ce dimanche 8 mars, un podcast inédit, 250 archives qui illustrent 65 ans de lutte. À tout de suite.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal. Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Et direction l'un des quartiers les plus huppés de la capitale, le 16e arrondissement de Paris, avec ses grandes rues calmes, bordées d'ambassades, devenues le théâtre d'une bataille politique au couteau. Trois listes menées par des figures du Parti Les Républicains sont en concurrence.
Bonjour Michaël Darmon.
Bonjour.
Emmanuel Macron a les yeux rivés sur ce 16e arrondissement. Pourquoi ?
Parce que c'est dans ce 16e arrondissement que le candidat Macron a fait 44% en 2017. C'est là également où sa femme a enseigné. Et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron va mesurer là sa capacité politique pour une prochaine campagne présidentielle. Il fonde donc son espoir sur la jeune candidate de la REM, Anna Sabah, âgée de 28 ans, figure montante de la droite locale. Elle a grandi à l'UMP, est élue du 16e et a rejoint Emmanuel Macron en 2017. Elle affronte aujourd'hui plusieurs listes de droite, dont celle de la maire sortante et de l'avocat Francis Piner. Pour Rachida Dati, ce territoire est stratégique. Elle ne peut pas se permettre de perdre ce bastion du 16e arrondissement. Or, c'est là que la droite entre pro et anti-Macron se déchire.
Bah ça montre bien que les municipales ont un impact national.
En fait, tous ceux qui martèlent qu'il ne s'agit que d'élections locales, Emmanuel Macron le premier, ne croient pas à ce qu'ils disent. Il ne fait aucun doute qu'au soir des élections municipales, il y aura des analyses sur les rapports de forces politiques issus du scrutin. Et pour Emmanuel Macron, plus que pour tout autre, Paris est une élection locale avec un enjeu national.
C'était le fait politique de Michaël Darmon.
À l'occasion de la journée des droits des femmes, ce dimanche 8 mars, Europe 1 vous propose un podcast exceptionnel intitulé « Mesdames, à partir des archives de la radio, 250 archives qui racontent 65 ans de combats, de luttes, de conquêtes ».
Et ce podcast, vous pourrez l'écouter ce soir dans le 18-20 de Nathalie Lévy, une production réalisée exclusivement à partir des archives sonores d'Europe 1. Cela démarre par la conférence de Genève sur les femmes en 1956 et s'achève sur la libération de la parole avec le mouvement MeToo.
Un podcast réalisé par Sébastien Guidis, incarné par Laure d'Autriche, avec le travail aussi du service des archives d'Europe 1, bien sûr.
Et ce matin, on vous propose un extrait autour des premières femmes à des postes ou dans des lieux prestigieux comme l'Académie française. Quand Jean d'Ormesson salue l'entrée de Marguerite Yourcenar dans le temple de la langue française en 1981, eh bien, cela donne forcément un moment d'histoire.
Un mot inouï et prodigieusement singulier, Madame. Madame, c'est une grande joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette vieille et illustre maison où vous êtes non pas certes le premier venu, mais enfin la première venue. Être une femme ne suffit toujours pas pour s'asseoir sous la coupole, mais être une femme ne suffit plus pour être empêché de s'y asseoir.
À droite, droite, en avant.
Le temps n'est pas encore venu de parler d'équilibre entre hommes et femmes, mais de leur faire une place. Dans presque tous les corps de métier, on voit progressivement l'arrivée de la première femme. Au début des années 80, Aviva Enorn est la seule femme chef d'orchestre à faire une carrière internationale et elle témoigne sur Europe 1.
Est-ce qu'en tant que chef d'orchestre féminin, vous aimez avoir des femmes dans votre orchestre ?
Je peux peut-être dire une chose, c'est que les femmes sont extrêmement consciencieuses et très sérieuses dans leur travail. Peut-être parce qu'elles sont obligées de faire plus d'efforts pour s'imposer.
En 1982, une journée internationale des droits des femmes est créée le 8 mars. Dans les manifestations, elles parlent toutes de salaire et d'indépendance.
Il y en a marre d'être payé beaucoup moins que les hommes. Qu'attendez-vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est primordial pour vous ?
Que vraiment les femmes ne restent plus chez elles, qu'elles aient une autonomie financière, je crois que c'est la chose la plus importante.
Voilà pour quelques extraits de ce podcast. Mesdames, le combat des femmes. Vous allez retrouver ces documents sonores, ces archives exceptionnelles dans le Grand Journal du Soir de Nathalie Lévy, entre 18h et 20h, diffusion suivie d'un débat notamment avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et Yvette Roudy, l'une des figures du féminisme français ce soir sur Europe 1. 8h15 presque, votre invité politique Sonia.
La France se prépare au stade 3 dans la lutte contre le coronavirus. Est-ce que les autorités gèrent efficacement cette crise? Qu'aurait changé des contrôles massifs aux frontières comme le réclame encore le Rassemblement National? Les réponses à suivre de mon invité, député européen. Bonjour Nicolas Bay.
Bonjour.
À tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Votre invité Sonia Mabrouk, c'est l'eurodéputé Rassemblement National Nicolas Bay.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Nicolas Bay, face au coronavirus, la gestion de la crise par l'exécutif est-elle à la hauteur de la situation selon vous?
Moi, je ne veux pas porter d'accusation à la légère. Évidemment, c'est une situation très complexe et tout le monde doit faire preuve de responsabilité. Mais le sentiment qu'on a quand même depuis le début de cette crise, c'est une forme de légèreté ou en tout cas d'impréparation du gouvernement. D'abord, il y a un changement de ministre en catastrophe, en plein début de la crise, ce qui évidemment était particulièrement malvenu. Et puis ensuite, on a l'impression que les décisions qui sont prises en elles-mêmes ne sont pas forcément mauvaises, mais elles sont toutes prises avec du retard, toujours avec un train de retard. Par exemple, les restrictions de vols commerciaux. Beaucoup de pays l'ont fait bien avant nous, on a fini par le faire. C'est vrai des restrictions des rassemblements, des grands événements. Nous l'avions demandé et finalement ça a été très tardif. C'est vrai aussi par exemple des réquisitions des stocks et de la production de masques. Beaucoup de pays l'ont fait avant nous, on a fini par le faire. Là je vois que l'Allemagne a déjà, depuis 3 ou 4 jours, interdit les exportations de matériel médical. En France, ça a toujours pas été fait. Donc, on a l'impression que le gouvernement, prend un certain nombre de décisions après la plupart des autres pays concernés par le coronavirus, y compris des pays qui sont parfois moins touchés que nous.
La situation, vous le savez, évolue quasiment d'heure en heure. Malgré tout, vous dites qu'il y a un manque d'anticipation?
Oui, je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation. Alors, peut-être que progressivement, ce manque est rattrapé, mais on voit bien que toute la batterie de précautions nécessaires pour protéger les Français n'a peut-être pas été prise. C'est d'ailleurs ce que nous avions dit dès le début. La restriction de la liberté de circulation, de manière très temporaire, notamment s'agissant des Italiens qui sont provenant des régions, la Vénétie, la Lombardie, particulièrement touchées par le virus, ça nous semblait être des précautions évidentes. Là, on a eu le sentiment d'une réponse un peu idéologique
Nicolas
du gouvernement qui refusait tout contrôle aux frontières.
Au début de cet entretien, vous m'avez dit qu'il ne faut pas polémiquer sur ce sujet. C'est ce que vous faites.
Non, c'est pas de la polémique.
Pointer un manque d'anticipation crise aussi grave, c'est le cas.
Non, mais on peut pas être aligné docilement sur les positions du gouvernement. C'est notre rôle de parti d'opposition, d'essayer d'avoir une analyse la plus exacte possible. Moi, je comprends la position du gouvernement qui consiste à essayer de rassurer. Mais le fait d'agir souvent avec retard, eh bien, ça contribue plutôt à inquiéter
les
Français.
Mais le devoir de transparence est respecté. Vous n'avez pas de raison d'en douter.
Non, je n'ai pas de raison. Moi, je ne porte pas d'accusation à la légère. J'espère que le gouvernement nous fournit toutes les informations utiles, nécessaires. Mais ce que je vois simplement, c'est qu'il y a quelques précautions qui auraient pu être prises sans doute avant. Et encore une fois, beaucoup de pays l'ont fait.
À l'inverse, qu'ont-ils fait de bien, de rassurant? Parce que vous dites quand même, et vous reconnaissez qu'il y a une forte mobilisation des autorités.
Je crois, oui. Puis je crois surtout que la France est encore, malgré un hôpital qui est en difficulté, nous avons quand même, malgré tout, des dispositifs hospitaliers, des protocoles qui sont performants, qui sont sans doute parmi les plus performants au monde. Et c'est une de nos forces, une de nos chances.
Qu'est-ce qu'aurait changé ou qu'aurait changé un contrôle renforcé aux frontières, comme vous le demandez encore d'ailleurs?
Aujourd'hui, on voit bien que tant qu'on n'a pas atteint le stade 3, tout est normalement fait pour essayer de limiter la propagation du virus. Donc, le fait de faire des contrôles aux frontières en demandant par exemple à ceux qui viennent de Vénétie ou de Lombardie de ne pas se rendre sur le territoire français pendant quelques semaines, ça fait partie de la batterie de précautions qu'on aurait pu prendre.
Ça serait si le nuage de Tchernobyl ne dépassait pas les frontières.
Non, mais en l'occurrence, le virus, il est transporté par les personnes. Jusqu'à la démonstration du contraire, il n'est pas d'ailleurs transporté autrement que par les personnes qui sont elles-mêmes infectées. C'est-à-dire que c'est pas transporté par exemple par les marchandises. Donc le fait de contrôler, de limiter, encore une fois, pendant une courte période, les déplacements, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, c'est sans
ce
doute de nature à limiter la propagation
pourquoi
du virus.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait selon vous? Est-ce que c'est par idéologie?
Oui, c'est possible qu'il y ait un peu une démarche idéologique, le refus un peu par principe de remettre en cause les grands dogmes, notamment celui de la libre circulation.
Mais ça voudrait dire que les scientifiques sont imbibés d'idéologie, qu'ils sont des sans-frontiéristes aussi, les médecins, parce que ce sont aussi des médecins, des autorités sanitaires et scientifiques qui disent que ce contrôle massif aux frontières ne sert à rien.
Oui, ils disent d'ailleurs pas tout à fait ça, quand on les écoute, ils disent que ils disent que ce ne sera pas forcément déterminant, mais en réalité, on sait qu'il n'y a pas de solution magique, et on sait qu'en réalité, le principe, c'est pas une seule précaution, une seule mesure qui sera efficace, c'est en réalité une accumulation de mesures. Voilà, et celle-là, on faisait partie.
Est-ce que la France, selon vous, Nicolas Bay, doit prendre alors des mesures aussi drastiques, puisque vous avez parlé de l'Italie, que notre voisin, justement, avec des écoles et des universités fermées?
La question, oui, en effet, peut se poser. Je ne dis pas, moi, qu'il faut le faire. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis ni médecin ni scientifique.
Mais ce sont aussi des décisions politiques.
Bien
c'est
sûr.
La question que vous posez.
Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on a pris beaucoup de mesures avec un train de retard. J'espère que ce ne sera pas le cas dans ce domaine-là. On a aujourd'hui une explosion du nombre de cas. On n'a jamais eu une hausse aussi forte dans la journée d'hier. Donc s'il y a des nécessités de confinement et de fermeture, par exemple, d'établissements scolaires, j'espère qu'elles seront prises à temps et pas avec quelques jours
de
retard.
Mais en même temps, vous souhaitez que le scrutin municipal se tienne d'ici à 10 jours. Pas de confinement,
non,
pas de fermeture,
encore, moi,
surtout pas.
Moi, je ne dis pas ça, d'ailleurs. Je dis que si vraiment, pour la sécurité sanitaire, pour la santé des Français, et parce que leur vie est en danger. Il faut quand même pas oublier que c'est pas une simple grippe, que le taux de létalité est au minimum 20 fois supérieur à celui de la grippe saisonnière. Donc on peut pas jouer avec la santé publique. Donc s'il y avait la nécessité de reporter les municipales, il faudrait pas se l'interdire. Je dis pas qu'il faut le faire par principe. Je dis pas qu'il faut, d'une manière générale, arrêter toute activité, tout déplacement.
Mais s'il y avait le moindre danger avec ces jours à venir et probablement le passage au stade 3, vous, au Rassemblement National, vous dites, pourquoi pas reporter ces élections
municipales. Bien sûr,
il
faudrait être prêt à le faire. Et d'ailleurs, moi, quand je vois Christophe Castaner qui dit non, de toute façon, elles auront lieu alors que c'est encore dans 10 jours et qu'on ne connaît pas la situation, ne serait-ce qu'à 2 ou 3 jours de distance, je suis un peu étonné de cette affirmation. Qu'ils disent qu'a priori, elles ne seront pas reportées, je peux le comprendre. Qu'ils affirment de manière un peu péremptoire que de toute façon, en toute hypothèse, elles ne le seront pas, j'avoue être un peu étonné. Je pense qu'il ne faut s'interdire aucune décision, aucune précaution qui permettrait de sauvegarder la santé et la vie des Français.
Nicolas Bay, est-ce qu'il y a un lien entre le coronavirus et les migrants en Europe?
Ça, je ne le crois pas.
Ah bon? Viktor Orban, le leader hongrois, a fait lui un lien entre les migrants. Viktor Orban, dont vous partagez beaucoup d'idées, a fait un lien entre les migrants qui sont massés à la frontière gréco-turque et le coronavirus. Son gouvernement a présenté les migrants comme autant de menaces et de risques sanitaires pour les pays européens.
En fait, c'est la question de la libre circulation qu'on évoquait il y a quelques instants.
Il a raison maintenant, finalement.
Mais il a évidemment raison. Le fait qu'il y ait des personnes.
Migrants égale contaminés au coronavirus.
Des personnes qui viennent de pays extérieurs et dont on ne connaît pas toujours la provenance, ils peuvent évidemment, il y a un risque potentiel qui transmettent le virus. C'est évident.
Des Syriens, des Afghans, des Somaliens, pas des pays où le coronavirus est particulièrement présent. C'est surtout en Europe d'ailleurs qu'il se développe.
Il peut y avoir peut-être des Iraniens aussi. En réalité, on ne sait pas. Par définition, lorsqu'ils sont migrants clandestins, souvent le pays d'origine est purement déclaratif sans possibilité de contrôle. Donc, c'est Viktor Orban, en limitant les possibilités de passage de la frontière hongroise, défend les intérêts de la Hongrie. Il a parfaitement raison de le faire. C'est une prudence élémentaire. Indépendamment de la question migratoire,
c'est
un autre sujet.
Ce n'est pas encore un amalgame. Migrants égale forcément contaminés au coronavirus. C'est un petit peu ce qui est induit.
Non, mais dès qu'il y a une mesure de bon sens qui est prise, immédiatement, on dit aussitôt, c'est scandaleux. Non, c'est pas scandaleux. Il est dans son rôle. Il est Premier ministre de la Hongrie. Il considère que faire venir des gens en Hongrie en ce moment, alors qu'il y en a certains qui potentiellement sont contaminés, ça représente un risque pour son peuple. Et donc, il prend une mesure de bon sens qui est de contrôler la frontière.
L'Union européenne ne cédera pas au chantage turc. Les chefs de gouvernement européens veulent protéger leurs frontières de l'invasion migratoire telle qu'elle est en tous les cas promise par la Turquie. La fermeté est là, affichée, revendiquée.
Non, rien du tout. Rien du tout.
Pourtant, les frontières de la Grèce, l'espace Schengen reste fermé.
Où est la solidarité européenne aujourd'hui? La Grèce est seule, en réalité, face à une pression migratoire absolument dramatique. Le sultan islamiste Erdogan organise sciemment l'invasion du continent européen. Et on a versé à la Turquie des sommes absolument considérables.
Vous savez pourquoi?
Depuis 20 ans,
oui, je sais. 4 millions de Syriens en Turquie. Si le Turc
c'est pas
Erdogan
tout à fait exact. En réalité, il y en a
3,3 millions.
Oui, enfin, en réalité, parmi ceux qui sont les réfugiés qui sont en Turquie, il y en a beaucoup qui ne viennent pas de Syrie. En réalité, il y en a qui viennent de plein de pays, y compris du Pakistan, de l'Afghanistan, etc.
Oui, mais 4 millions de migrants ou de réfugiés, si Erdogan ne les avait pas accueillis, on peut se demander ce qui se serait passé aussi.
Non, mais il fuit la guerre en Syrie.
C'est pour ça que l'argent a été distribué.
Il fuit la guerre en Syrie, non, mais pas seulement. On a versé 6 milliards à la Syrie, à la Turquie, dans le cadre du contrôle migratoire, ce qu'elle fait assez mal d'ailleurs, mais on a versé en totalité depuis 20 ans 50 milliards d'euros. On a versé 15 milliards au titre des fonds de préadhésion et 30 milliards dans le cadre de la Banque européenne d'investissement. C'est-à-dire pour financer des entreprises et des infrastructures en Turquie. Ce qui fait de la Turquie le pays hors Union européenne qui a touché le plus d'argent de l'Europe, du monde entier.
Vous m'avez dit il y a un instant.
Donc aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est un, de protéger nos frontières. Où est la solidarité européenne? Il faut faire en sorte que l'ensemble des nations européennes se sentent concernées.
Les frontières de la Grèce ne sont pas fermées?
Non.
L'espace Schengen ne sont pas fermés en ce moment?
En réalité, la Grèce a toutes les peines du monde à contrôler sa frontière. Or, à cause de Schengen et de la libre circulation, eh bien, la frontière grecque, c'est notre frontière. Ensuite, il faut une riposte. Riposte politique, remettre en cause le processus d'adhésion et remettre en cause les financements versés à la Turquie, riposte diplomatique, rétablir des relations avec la Syrie et peut-être même remettre en cause la place centrale qu'a aujourd'hui la Turquie dans le cadre de l'OTAN et enfin riposte économique parce qu'aujourd'hui 41% du commerce turc extérieur se fait direction de l'Union Européenne grâce à l'Union Douanière.
Vous parlez beaucoup de l'Union Européenne mais le vrai maître du jeu, et on l'a vu avec l'accord dont on a parlé dans le journal du 8h, c'est Poutine.
Bien
Merci,
sûr,
Nicolas
oui,
B.
Il est capable, lui, d'agir là-bas, ce que les nations européennes sont incapables de faire.
Ce matin, sur Europe 1, merci à vous.
Merci beaucoup, Sonia Mabrouk. Il est 8h28, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1.
La météo, les infos, Nicolas Cantelot, 8h45, ça c'est comme tous les jours. Là, dans le journal de 8h30, nous allons appeler la directrice de la diversité et de l'inclusion chez Orange. Comment ont-ils fait pour progresser dans l'index de l'égalité homme-femme? La réponse dans un instant.
8h31, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Un nouveau point sur l'information avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Plus aucune région métropolitaine n'est épargnée et comme un symbole, la représentation nationale est aussi désormais touchée.
Avec un député contaminé, Jean-Luc Reitzer, député du Haut-Rhin, hospitalisé en réanimation à l'hôpital de Mulhouse, où se trouve d'ailleurs l'un des foyers de contamination après un rassemblement de l'église évangélique. Un salarié de l'Assemblée est aussi infecté, un autre suspecté. Hier, Emmanuel Macron a estimé que la France avançait vers une épidémie inexorable. L'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes a été confirmée. Les entreprises de plus de 1000 salariés au rapport. Publication ce matin de l'index égalité femmes-hommes sur le site du ministère du Travail.
Bonjour Delphine Pouponneau.
Bonjour, vous êtes, merci d'avoir invité.
C'est normal, vous êtes directrice diversité et inclusion chez Orange et vous êtes finalement l'incarnation ce matin des vertus de ce classement dans lequel les entreprises sont nommément affichées. On en parlait hier matin quasiment à la même heure avec Muriel Pénicaud. Vous aviez une note de 94 sur 100 l'an dernier, vous êtes passé à 99 sur 100. Sur quoi cet index vous a-t-il incité à travailler justement? Comment est-ce que vous avez fait pour progresser?
Alors, je veux juste rappeler que Orange n'a pas attendu l'index pour mettre en œuvre une politique en faveur de l'égalité professionnelle. Hein. Et l'égalité salariale, c'est effectivement l'une de nos priorités. Ça fait plusieurs années, avec les partenaires sociaux, lors des négociations salariales, qu'on dédie des budgets spécifiques pour permettre de réduire les écarts, qu'on dédie aussi des budgets spécifiques pour la promotion des femmes.
Mais cet index vous engage aussi et vous oblige. Ça a été ça aussi peut-être la vertu de cet index.
Tout à fait. Je pense que la vertu de cet index, c'est d'assurer de la transparence. On avait effectivement l'année dernière déjà un très beau résultat avec 94 sur 100. Aujourd'hui, on est très fiers de voir que cette politique volontariste menée depuis plusieurs années nous permet d'afficher une note de 99 sur 100. Donc voilà, on est très content de cette progression.
Alors, des budgets dédiés, de la transparence. Quand on voit les résultats ces dernières années de la politique de quotas dans les conseils d'administration, vous en dites quoi, vous, chez Orange, de ces idées de quotas?
Alors, chez Orange, je n'en sais rien, mais en tout cas, personnellement, je pense qu'effectivement, c'est des mesures, bien qu'on peut considérer qu'elles soient regrettables, qui sont nécessaires pour faire progresser ces sujets. On l'a vu, effectivement, sur les quotas de 30% dans les conseils d'administration, ça a vraiment permis de booster la place des femmes dans ces conseils. L'index femmes-hommes est là aussi pour assurer de la transparence et permettre de faire évoluer ces sujets qui, parfois, ont tendance à évoluer de manière très très peu progressive.
Donc il faut tordre le bras finalement aux entreprises pour qu'elles progressent.
Bah, c'est malheureux, mais effectivement, je pense que c'est un mal nécessaire. Mais bon, je vous dis, chez Orange, on n'avait pas attendu l'index pour progresser. Et on souhaite même aller plus loin parce que, bon, c'est bien, ça existe en France. Mais Orange est présent à l'international, hein, dans 26 pays et puis 18 en Afrique et au Moyen-Orient. On a signé en juillet 2019 un accord mondial avec les partenaires sociaux sur l'égalité professionnelle. Et on s'est donné collectivement comme ambition d'atteindre en 2025 l'égalité salariale dans tous nos pays. Donc c'est un beau challenge, mais voilà, on veut faire progresser aussi l'ensemble de nos pays sur ces sujets.
Vous étiez cité, hein, donné en exemple par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, hier matin sur Europe 1. Merci Delphine Pouponneau, directrice à la diversité et inclusion chez Orange. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 avec nous.
Enfin, ce sera PSG Saint-Etienne en finale de la Coupe de France. Les Stéphanois qualifiés hier soir après avoir battu Rennes 2-1.
8h35 sur Europe 1. La météo dans quelques petites secondes. Laurent Cabrol est avec nous, la météo aujourd'hui, Laurent.
Alors résumons-nous, ça, beaucoup de vent, ça c'est la première chose. Deuxièmement, des régions pénalisées, Bretagne, Pays Nantais, Poitou-Charentes, Aquitaine, parce qu'il va pleuvoir assez fréquemment. Midi-Pyrénées, Limousin, Cantal pour la même raison, des pluies assez fréquentes, avec partout du vent. Des régions où ça va s'arranger un tout petit peu, le Nord, la Lorraine, l'Alsace, le Dijonais, la Franche-Comté, ça deviendra un peu plus sec. Et puis la région parisienne, ce ne sera pas trop mal, malgré quelques petites averses, comme le Morvan et la région lyonnaise, bassin méditerranéen, du soleil. Pour nous résumer, les températures vont s'échelonner entre 9 et 13 degrés à l'abri du vent. Pour nous résumer encore, disons que nous avons deux vigilances orange en Vendée, le Lay, dans le Pas-de-Calais, la Lys, qui sont deux secteurs où les inondations sont menaces. Et puis enfin, pour si vous devez choisir, pour demain et après-demain, c'est-à-dire le congé de fin de semaine, si vous avez quelque chose à faire, si vous pouvez choisir, choisissez samedi, ça sera beaucoup plus sympa.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, 8h37. Sur Europe 1, dans quelques toutes petites secondes, Fanny Agostini, notre rendez-vous à la ferme, on va parler de grenouilles, avant de retrouver Jean-Pierre Montanet. À tout de suite.
Il est 8h38, vous êtes avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Mathieu Béliard.
C'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme. Tous les matins, nous prenons la direction de la campagne. Pas n'importe quelle campagne, Boissey, en Haute-Loire, où vous vivez Fanny. Et c'est le début, puisqu'on vit avec les saisons Fanny, c'est le début de la saison des grenouilles ce week-end.
Et leur arrivée.
Oui, mais ça, apparemment ça ne vous remémore pas que des bons souvenirs.
Alors c'est vrai qu'en partie, quand j'étais petite, j'ai été vraiment traumatisée par le hachoir qu'utilisait mon grand-père pour scalper le postérieur de ces pauvres batraciens, parce que quand j'étais petite, on en mangeait à la maison. Et ben de là est née une répulsion qui n'avait rien à voir à l'époque avec de la sensiblerie, Mathieu, parce que quand on y réfléchit bien, de vous à moi, il y a un truc pas très digne dans cette tradition culinaire française, car seules les cuisses de la grenouille sont utilisées pour notre consommation. Alors je me suis amusée à faire un petit calcul. Si vous prenez une grenouille rousse de bonne taille, une bête donc de 100 grammes, vous lui enlevez les pattes arrière et cela ne représente que 25 grammes, ce qui signifie que nous mangeons un quart de la pauvre bête, de la pauvre grenouille, le reste on le jette. Imaginez-vous manger juste les cuisses de nos poulets et nous en débarrasser ensuite, c'est un petit peu le parallèle.
Non, c'est sûr que c'est du gâchis. Bon, ce quart est bon, hein, mais ça reste du gâchis pour le reste. Un autre point à souligner, Fanny, c'est que c'est qu'on importe massivement des grenouilles. On importe des grenouilles en France ?
Oui, là c'est un autre point quand même. Sur notre territoire, la raniculture, c'est-à-dire l'élevage de grenouilles, existe à l'échelle industrielle seulement dans la Drôme et en Normandie. On n'arrive pas à contenter notre appétit batracivore, il faut importer ces grenouilles en grande partie d'Indonésie où 100 millions seraient ainsi importés en France pour notre consommation annuelle, ce qui accélère en plus la disparition de certaines espèces de grenouilles indonésiennes. Donc là aussi, il y a quand même une petite aberration.
Quand elles sont les grenouilles, quant aux grenouilles sauvages, elles sont protégées?
C'est très réglementé. Leur prélèvement au milieu naturel fait l'objet de réglementations. En ce qui concerne la grenouille rousse, qui est la seule à être commercialisée surtout. Alors, cette grenouille rousse, vous pouvez la voir en ce moment si vous vous baladez près des mares, marais, ruisseaux et étangs. C'est la saison, hein. Elles commencent à sortir d'hibernation. Elles sortent des sous-bois et elles font des kilomètres pour revenir à l'endroit exact où elles sont nées pour se reproduire à leur tour. Une migration qui est aussi à risque pour ces petits amphibiens qui doivent traverser les voies de circulation. Voilà pourquoi il y a des dispositifs qui sont mis en place un peu partout par les associations ou le conservatoire des espaces naturels, comme des crapaudromes ou encore des crapauducs, des sortes de passerelles adaptées pour éviter que les grenouilles rousses ne finissent pas en crêpe ou en carpaccio sous les pneus des voitures.
Oui, parce que ça se mange pas en carpaccio, la cuisse de grenouille. Non, c'est pas la peine avec le petit parfum du pneu, du bitume. Non, merci. On apprend des choses au contact de la nature tous les matins sur Europe 1. C'est le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini.
Et c'est en attendant demain avec Jean-Pierre Montanet sur Europe 1.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Mathieu.
On en a parlé. je renvoie vers l'émission spéciale de Nathalie Lévy, 18h-20h ce soir.
Naturellement.
Podcast exceptionnel avec des archives Europe 1. On va parler des droits des femmes parce que dimanche est la journée internationale des droits de la femme. Des femmes de plus en plus nombreuses à se retrouver entre elles, Jean-Pierre, sans hommes. Demain, est-ce que ça peut changer nos relations ?
Écoutez Mathieu, sur l'île de Majorque, un chic 4 étoiles accueille une clientèle 100% féminine afin que les femmes ne subissent plus remarques lourdingues et dragues insistantes. Strictement interdit aux hommes, donc même pour un apéro. D'autres établissements sanctuarisés ont ouvert à Bali, en Suisse et à Tokyo. Sur ce phénomène surfent des sites comme Copines de Voyage pour bourlinguer entre femmes uniquement, entre soi donc. Un service de VTC pour circuler en paix, des salles de sport, des randonnées, des ateliers de toutes sortes sont désormais réservés aux filles. Les soupapes, par exemple, à Grenoble, le garage associatif, créé par deux femmes, les hommes n'y sont pas les bienvenus. Et pour cause, le but est d'initier les filles à la mécanique en cassant les clichés machos. Hier, s'est ouvert à Paris la Cité Audacieuse pour fédérer, organiser le combat des femmes avec une devise corrigée, liberté, égalité, sororité.
Et d'où vient ce mot ? Pourquoi est-ce qu'il ressort ?
Terme utilisé dans les années 70 aux États-Unis par les premières féministes qui dénoncent l'oppression du patriarcat dont sont victimes les femmes de toutes conditions sociales. Après le scandale Weinstein, le monde découvre l'ampleur des violences faites aux femmes. Le mouvement MeToo se réapproprie le mot pour appeler à la solidarité féminine, la sororité donc, l'équivalent féminin de fraternité. Les réseaux sociaux étant un formidable porte-voix pour ces idées féministes, voilà comment Balance ton porc et la sororité font désormais partie du langage courant.
Mais demain, filles et garçons ne devront donc plus se mélanger ?
Plein d'espaces sont naturellement trustés par les hommes sans que cela ne choque. Des clubs élitistes, des cercles de fumeurs de Havane, d'amateurs de Bourbon, des confréries de chasseurs. Mais la meilleure riposte est-elle pour autant demain l'ouverture de restaurants, de cinémas, de librairies, de supermarchés, de trains destinés aux filles ? La question divise aussi bien les chapelles du féminisme que les femmes elles-mêmes. Certains jugent triste d'en arriver là, certains hommes aussi. Le danger n'est-il pas de voir s'installer un sexisme à l'envers, un communautarisme genré qui instille l'idée que la mixité est dépassée, que le progrès de la condition féminine ne passe plus par la parité, mais par la séparation. Demain, si les femmes organisent des manifs pour défendre leurs droits, qu'elles invitent les hommes cette fois. Ce combat contre la misogynie, les violences, c'est aussi le nôtre.
En attendant demain, tous les matins, c'est avec Jean-Pierre Montanet. Il est 8h44.
La revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie à suivre sur Europe 1. Europe 1, 8h46.
Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité.
Oui, mon invité, Nicolas Bay, vous êtes député européen du Rassemblement National. Est-ce que vous voyez un lien entre migrants et coronavirus ?
Écoutez, non, je crois pas pour l'instant, en tout cas, évidemment, non, je pense pas, mais bon, quand même, les gens circulent, donc ils bougent, donc quelque part, ils migrent. Hein, et puis, ce virus, excusez-moi, Mabrouk, mais il n'est pas apparu tout seul chez nous. Hein, il est bienvenu de quelque part. Alors, c'est peut-être pas, effectivement, les migrants, mais c'est quand même au minimum les étrangers, hein, voire les immigrés, les autres, les clandestins, les sans-papiers, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pensé, pas les migrants, c'est vrai. En tout cas, je peux dire qu'avec Poutine, on n'en serait pas là. Hein.
Merci Nicolas Bay, Nicolas Bay. Hey, hey.
Ah, oui, moi aussi j'ai pensé à la chanson d'Anne Chine. Oui.
Calmez-vous et vive Poutine. Hein.
Merci, à vous Julie.
Bien la voix de Nicolas Bay, c'est bien ça, hein. Bravo. Allez Mathieu Béliard, on vous retrouve pour le titre principal de l'actu.
C'est bien de distribuer des bons points comme bah ça, oui, ma chère Julie. Hein, l'actualité, ça fait plaisir. L'actualité ce matin, ce sont, chers amis, les Français qui font des stocks de pâtes, des stocks de riz, de conserves, alors que c'est quelque part stupide, quitte à vivre nos derniers jours, on en est tous d'accord autour de cette table, pourquoi les passer à manger des coquillettes panzani, franchement, hein. Si on est condamné, ce sont les rayons de caviar qu'il faut dévaliser, de foie gras, de saumon fumé qu'il faut vider. Moi je peux vous dire, Julie, moi je ne perdrai pas en bouffant des nouilles, hein, ça c'est sûr. Moi je peux vous dire, mon dernier repas, ce sera un porcelet rôti, fourré à la dinde, farci aux champignons.
Oula.
C'est l'Orient
ça c'est l'entrée et le plat.
Ça, je verrai avec Lolo. À vous, Julie.
Vous mourrez d'une indigestion et plus du coronavirus, mon cher Mathieu.
Oh, je suis solide.
Allez,
Avec le coronavirus, les prix des gels hydroalcooliques se sont envolés. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a affirmé vouloir encadrer leurs prix avec un décret spécial. Bonjour Bruno Le Maire.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à tous vos aimables sous-fifres autour de cette table. Il n'y a pas de débat. J'ai décidé, oui, en responsabilité, de geler les prix. En tant que futur Premier ministre, il faut savoir prendre des vraies décisions. Autrement dit, j'ai gelé les prix. Autrement dit, j'ai gelé le gel.
Oh, mais c'est magnifique.
Vous savez, je suis un petit peu la reine des neiges de ce gouvernement.
Un petit peu, oui, c'est ça. Ben, c'est vrai qu'on a vu des sites proposer le gel à des prix délirants, hein, parfois 6 ou 7 fois plus que le prix normal.
Oui, oui, ça c'est scandaleux, franchement. Bah, oui. Je suis scandalé. Je suis scandalé parce que, oui, c'est Nicolas Sarkozy qui m'a appris le français. Je suis scandalé.
Oui, ça c'est scandalé. T'as raison. Du verbe scandale.
Voilà. Oui, allez, enchaînons.
Merci, monsieur le Président. Tenez-vous bien, certaines sociétés, est-ce que vous vous rendez compte du problème ? Certaines sociétés profitaient de cette situation, c'est honteux. Plus les gens avaient besoin de gel, plus les entreprises faisaient monter les prix. Non mais vous imaginez un peu, non mais franchement, dans quel pays vit-on ? Quelle honte !
Oui, mais cela dit, c'est le principe de l'économie de marché, hein. La détermination des prix par le jeu de l'offre et de la demande. C'est le capitalisme, hein, c'est ça ? Ça s'appelle comme ça.
Hein oui, oui, ben c'est... oui, si vous voulez, oui.
Et alors, oui, ben donc, c'est le système dont vous faites la promotion depuis 20 ans. Hein.
Oui, ah oui, c'est vrai, oui. Oui, oula. Oui, mais pourtant, ce n'est pas faux ce que vous dites. Une fois, Mme Julie, en 14 ans de collaboration, vous êtes en train de dire une vérité. Mais
14 ans déjà, c'est génial.
Je n'ai jamais voulu ça. Vous savez, moi, je suis dans mon petit bureau, je mets des chiffres dans les colonnes. Mais c'est vrai, je n'avais pas réalisé que oh là là, mais quelque part, j'ai nourri un monstre. Ça ne peut pas durer. Vous imaginez ce que doivent endurer les masses prolétariennes ? Il faut qu'on fasse une véritable révolution culturelle. C'est urgent contre cette bourgeoisie possédante, Madame Julie. Qu'on m'apporte le marteau de Piotr Pavlinsky.
Oula, vous savez quoi,
je m'en veux. Non. Je m'en veux d'avoir nourri ce système. Vous savez quoi, je vais me clouer les testicules devant la bourse de Francfort.
Oh non, non, faites pas ça, malheureux. Allons.
Bien, Bruno, c'est Piotr. Je vais aider toi. Laissez-toi faire.
Ah, quelle horreur.
Oui.
Oh là là là.
Eh bien, vous voyez, Mme Julie, il faut être prêt à donner de sa personne pour combattre les dérives du capitalisme. Sur ce point, il n'y a pas de débat.
Oh là là, on a mal pour vous, vraiment. Allez, courage, monsieur le maire. Ségolène Royal sort un nouveau livre et c'est le troisième en 3 ans, figurez-vous. Il s'intitule « Résilience française, sauvons notre modèle social ». Bonjour, madame Royal.
Oui.
Bonjour, Mme Julie, monsieur Béliard. Voilà mon nouveau livre. Une idée cadeau, une idée potion, hein, si vous êtes coincé chez vous à cause du coronavirus, hein, eh bien, réjouissez-vous. Hein, vous pouvez dévorer mon ouvrage « Résilience française, sauvons notre modèle social ». Hein ? Rien que le titre, ça donne envie.
Oui, hein, oui, vraiment. Oui,
autant alors, qu'une petite tranche de foie gras, monsieur Béliard.
Oui, avec.
Voilà, oui, à déguster avec modération.
C'est cela. Alors, dans votre livre, il y a un programme politique. Hein. Vous pouvez peut-être nous en lire un extrait, hein, qu'on voit un peu vos propositions.
Oui,
sur
bien sûr.
On peut parler alors, de l'hôpital. Sur l'hôpital, tiens, ou la sécurité sociale.
Alors,
par
l'hôpital,
exemple.
Attendez, je vais au sommaire. Hein, parce que c'est pas moi qui l'écris, il faut que je sache. Non, je plaisante, bien sûr. Alors, page 82. Alors.
Page 82.
J'enlève mon marque-page en forme de pingouin. Oui, je vous lis ça. L'hôpital a été détruit par Emmanuel Macron. Son arrogance et sa verticalité ont mis à mal notre système de santé. Il est nul. Il faut voter pour moi. Voyez le style qui est limpide.
Ah ouais. Ah, c'est dans votre livre, ça, Maline. Donc. Et sur la Sécu, la sécurité sociale.
Alors, la sécurité. Attendez, je déplace le marque-page. Alors, je vais au sommaire parce que c'est bien fichu. Ça serait très organisé, mon
oui,
livre.
Oui, bien.
Page sécurité où, sociale 72.
Page 72. Oui.
On a le temps.
Hein, allez, ouais. On a le temps.
72. Allez, page 72. La sécurité sociale a été détruite par Emmanuel Macron. Sa verticalité, sa brutalité, ainsi que son ego, ont mis à mal notre système social. il est nul. Il faut voter pour moi.
Ah bah non, c'est pas un peu sommaire tout ça.
De parallélisme dans le style.
Oui, c'est ça. Non, et sur la politique étrangère, vous en parlez aussi ?
Alors, je déplace mon marque-page. Je vais à la page sondeuse. Les auditeurs ont l'habitude, non ? Parce que c'est une forme de mode d'emploi qui comprennent quand ils auront mon livre en
poche.
Page 102, voilà. Emmanuel Macron est nul en politique étrangère, se disait Ségolène en se recoiffant. Si jamais j'avais été élu, je ferais mille fois mieux, pensait notre héroïne. Incarnation sublime de la France de 2022. Puis, elle sourit à son reflet et ses dents étaient comme des perles de nacre. Dans ses yeux se lisaient l'intelligence, la sensibilité et la volonté.
Ah, les dents.
Voilà.
Eh ben, bravo, hein, bravo pour le style. Très bien. C'est vrai,
je ne me déçois pas.
Allez, on va parler du procès Fillon maintenant. Pénélope Fillon peine toujours autant à justifier son salaire, l'axe utilisé par la défense et que l'aide apportée par Pénélope était surtout immatérielle. Et évidemment, il est compliqué de fournir les preuves d'un travail immatériel. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Pénélope Fillon.
Oui, bonjour. Écoutez...
Laurent qui dit oula.
Non, si vous dites oula, je pars.
Non, allez-y, on veut vous écouter.
Alors, j'ai déjà beaucoup de mal à témoigner.
Oui,
alors,
allez-y.
J'ai aidé mon mari, je tiens à le dire de façon immatérielle, je le redis, immatérielle. Et je tiens à la disposition de justice mon grille de tarifs. Qui expliquera tous les malentendus.
Mais attendez, votre grille de tarifs ?
Oui, j'ai regardé.
Allez-y.
Alors, hein. Dire bon courage François, 200 euros. Allez François, tu peux le faire, 400 euros.
Ah d'accord, oui.
Allez François, un jour tu seras le président. 800 euros, plus un prime de mensonge de 55 euros.
Ah, carrément, la prime de
mensonge. Voyez qu'elle... Excusez-moi, je prends l'antenne. Excuse-moi, Pénélope, de te couper la parole. J'aime bien ça. Voyez qu'elle travaillait, Pénélope.
Oui, enfin, monsieur Fillon, c'est ridicule. Hein, votre femme n'a jamais rempli aucune mission à votre service, avouez-le.
Mais pas du tout. Écoutez, moi, j'avais demandé à Pénélope de faire progresser ma notoriété auprès des Français. Et franchement, mais regardez le résultat. Grâce à elle, on n'a jamais autant parlé de moi dans toute ma carrière, même lorsque j'étais Premier ministre. Voyez, elle a accompli sa mission avec courage, avec ténacité, avec efficacité.
Oui, bon.
Bon, allez, bon, écoutez, on va vous laisser. Tu dis au revoir, Pénélope.
D'accord, mais alors, c'est 300 euros sur la grille. Au revoir.
300 euros pour dire au revoir.
Il faut bien le dire. Julie, merci beaucoup. Merci à Nicolas Canteloup, la revue de presse qu'a retrouvée sur Europe 1.fr. Et bravo aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. 8h56, la matinée continue sur Europe 1 avec Philippe Vandel. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Notre infomédia aujourd'hui dans Culture Média, on est à deux jours de la journée des droits des femmes. Ce sera dimanche. On va s'intéresser à l'industrie du porno. Canal Plus Cinéma diffuse ce 8 mars un court-métrage écrit par Ovidie. Vous savez qui c'est ?
Oui.
Jamais entendu parler.
Si, c'est une réalisatrice.
Exactement. Oui, on la présente même. On la présente, ce rire vous trahit. On la présente souvent comme l'intello du X. Le résultat est stupéfiant. Elle sera avec nous dans ce studio. Les plus grosses audiences des émissions télé hors foot, c'est ce soir sur TF1. Les Enfoirés, grand concert au bénéfice des Restos du Cœur, créé à 35 ans, faut-il le rappeler, par Coluche. On sera avec Sophie Bazou. Elle est la responsable des Enfoirés au sein même des Restos du Cœur. Et puis la fameuse Anne Marcassu, directrice artistique. Et déjà, pour faire taire les polémiques, c'est pas comme Pénélope. Toutes les deux sont bénévoles. Et puis enfin, la comédienne Firmin Richard, on l'avait vue dans 8 et demi ou dans La Première Étoile, elle sort un livre dans lequel elle raconte sa vie plus que romanesque et dans lequel elle dénonce le racisme dans le cinéma français, ça promet.
Philippe Vandel, Culture Média de 9h à 11h ce week-end, tous les matins, samedi, dimanche, 6h-9h, ouais. Bernard Poirette pour vous réveiller évidemment, puis proposer un tout petit peu lundi matin, c'est Pierre de Villeneuve que vous retrouverez à partir de 6h. Mais d'ici là, vous savez quoi ? Le monde aura changé et il va vous le raconter.
Quand vous reviendrez aussi, on va vous le raconter.
Et c'était Mathieu Bellier sur Europe 1. Excellent week-end à vous. Europe 1.